Comment battre le système en 2027? L'union de la dissidence est-elle possible? Y a-t-il une opposition contrôlée? Vous saurez tout avec le journaliste militant star Richard Boutry. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors déjà, merci à vous d'avoir été si nombreux mardi soir sur le grand live Jean-Michel. Vous avez aimé ça, le live Jean-Michel. Et bien, continuez à le partager. Il faut faire passer ce live dans le domaine public. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que je reçois un ami que j'aime beaucoup, qui a fait énormément et qui prend des risques, parce que dans ce monde, on prend pas beaucoup de risques. C'est Richard Boutry, journaliste que vous connaissez tous, journaliste à abattre. Et pour le coup, c'est pas usurpé, c'est vraiment un journaliste à abattre. Comment vas-tu, cher Richard ?
Bah écoute, merci infiniment, Mike. Déjà de ton amitié, de ta présence à mes côtés, à nos côtés. On sait qui tu es, le public sait qui tu es. Et aujourd'hui, si le public te suit, c'est parce que le public sait aujourd'hui qu'il a en face de lui quelqu'un qui cherche à fédérer un peu tout ce monde-là. Et je trouve que ta démarche est ultra salutaire. Ton esprit est merveilleux et vraiment, je me fais une joie que Géopolitique Profonde, de tout cœur, réussisse aussi bien. Et je veux dire, c'est en grande partie grâce à toi. Et bravo.
Je te remercie beaucoup, cher Richard. Mais il faut le dire, tu as été celui qui a ouvert la voie parce que, il faut le dire, tu étais une star sur le Soir 3, à France 3. Tu aurais pu dire, bon, de toute façon, je suis une vedette, je reste sur Soir 3, je fais mon petit truc. Mais tu as choisi quand même un autre chemin et malgré tout, c'est ultra courageux et ça, faut le souligner.
Alors c'est vrai qu'en lisant avec mes enfants le Figaro magazine, il y a de cela deux semaines, j'ai ouvert les pages du Figaro magazine et je voyais mon ancienne propriété de Bordeaux. 3 hectares de terrain, 10 kilomètres de Bordeaux, tennis, piscine, on avait 9 chambres, chambres d'hôtes, et on évoluait dans un cadre absolument féerique, merveilleux, merveilleux. La maison était là, filmée, en tout cas photographiée dans le Figaro magazine. Et ce que je voyais à travers ça, si tu veux, c'est le parcours qui est le mien depuis. C'est-à-dire que j'ai tout perdu. Donc les gens, malheureusement, et je prie vraiment pour eux, parce que ce sont des gens extrêmement tristes sûrement, ce sont des gens qui sont morcelés intérieurement, mais qui se permettent de dire que j'ai gagné de l'argent avec la résistance alors que j'ai tout perdu. Natacha est ici et qui vit ma vie, une vie extrêmement difficile, une vie extrêmement simple. Je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a des agriculteurs ici autour de ce plateau et les gens verront également leur situation de vie. Mais je vis aujourd'hui vraiment des plus simplement possibles, avec quasiment 150 euros par semaine pour vivre. J'ai plus de droits, j'ai plus de carte vitale, j'ai pas de sécurité sociale. Bien sûr, je pense ne pas avoir de retraite. J'ai plus d'argent devant moi, j'ai un contrôle fiscal aujourd'hui. On va essayer de tondre un œuf et j'espère qu'on reviendra dessus, alors que je n'ai rien de chez rien. Et que, pour pas dévoiler les sources du dossier, mais on sait très bien qu'il n'y a rien derrière. D'accord ? Donc tout ça est déclenché. Pourquoi ? Tout ça est déclenché parce que on fait peur. Et je souhaite remplacer le « je » par le « on » maintenant. Et c'est tout l'objet de mon livre.
On va parler de ton nouveau livre.
Le Grand Virage 2027. Le « je » doit remplacer le « nous ». Et je ne veux pas me servir, comme les politiques actuelles, je veux mettre au service d'eux. Et toute la démarche, elle est dans ce sens.
Alors, on va parler de ton nouveau livre. Et il faut le dire aux spectateurs, parce que voilà, ici, on est transparent. On ne l'a pas montré en miniature, ce livre. Et tu vas expliquer pourquoi. Parce que là, pour le coup, sur ce livre, qui est un excellent livre, où il y a des propositions, il y a 50 énormes propositions, il y a eu une forme de sabotage qui a été fait contre lui.
Alors, j'espère qu'on reviendra également au cours de cette émission qui va durer 2 heures, mais sur la façon dont le gouvernement infiltre des gens au sein même de la résistance. Et avec Natacha, on l'a vécu à plusieurs
titres. Mais parle-nous d'abord de ce sabotage qui a été fait et on reviendra.
Alors, justement, je reviens directement à travers ça, si tu veux. C'est vrai que dans la résistance, on est, nous, épiés, surveillés. On téléguide des personnes pour venir nous mitrailler et nous cisailler en interne. Et là, je ne fais pas de victimisation en disant ça, on a vécu ça. Les gens, en tout cas certaines personnes malveillantes, se sont vraiment prises, vraiment nous ont pris pour cible. Lorsqu'on a essuyé quand même des tirs, c'était sur l'autoroute, on était avec Natacha. Natacha est encore, elle est ici, elle est encore complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu, parce que les tirs étaient dirigés contre elle. On a vécu des arrestations, on a vécu des menaces, des intimidations de tout genre, avec des gens qui rentrent en fait au plus proche de nous et qui nous cisaillent. Ce sont tous les trolls que vous verrez du reste sur cette antenne apparaître en disant « rends-nous l'argent » alors qu'on vit de rien, en nous disant « l'opposition contrôlée » alors que personne, en tout cas peu de gens se sont battus autant que nous, en tout cas pendant 3 ans, jour et nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et on doit le dénoncer. Mais si tu veux, le but de ce livre, c'est avant tout de pouvoir rassembler avant de dénoncer.
Mais justement, et c'est ça parle-nous de ce qui se passe.
Alors justement, par rapport à ce que tu me dis, tu vois, sur la couverture de ce livre, donc le Grand Virage 2027, on peut nous rejoindre sur legrandvirage2027.fr, on parlera du contenu du livre dans un instant, mais on voit très bien les 50 mesures. C'est-à-dire que même sur la devanture du livre, on nous a torpillés pour me faire passer pour un crétin et pour un imbécile. Même sur la couverture du livre, sans parler des 10 coquilles qui est à l'intérieur. Il y en a 10, mais il y a 10. C'est-à-dire qu'avec des fautes de frappe, des fautes de français, des fautes d'accord.
Alors que ça a été relu.
Alors que ça a été lu, relu, re-relu. C'est-à-dire, Natacha, elle est bardée de diplômes. On sait très bien que les deux personnes qui ont relu ça sont des personnes qui ont fait des thèses, qui ont démultiplié les études et qui connaissent parfaitement l'orthographe. Moi-même, je pense quand même bien écrire. J'ai toujours été journaliste, j'ai commencé par la presse écrite pendant longtemps. Et malgré tout, il y a ces coquilles dans le texte final. Donc on est obligé d'enlever le texte des ventes pour ensuite le modifier et le remettre en auto-édition sur les plateformes correspondantes. Donc vous voyez, l'opposition contrôlée, elle s'infiltre partout, y compris, je veux dire, dans nos propres rangs, dans les rangs de la vraie résistance.
Alors, on va parler de tout ça, cher Richard, mais avant ça, je vais faire le tour de plateau. On va présenter nos amis qui sont autour du plateau. Donc, d'abord, Luc Auffray, agriculteur. Voilà. Comment ça va, cher Luc ? Là, vous venez de Bretagne.
Je viens de Bretagne et je tiens à vous remercier pour l'invitation, et ainsi que Richard, parce que c'est grâce à lui qui m'a fait connaître tout ça. Vous et Sébastien Béraud aussi qui m'a guidé, qui m'a envoyé vers Richard en premier et puis après voilà quoi. Donc je tiens à remercier tout le monde et je suis agriculteur dans les Côtes-d'Armor, une petite commune entre Dinan et Lamballe. Et donc je suis victime d'ondes électromagnétiques par rapport à un poste source Enedis de 63 000 volts qui se situe à 200 mètres de mon exploitation, 150 mètres, 200 mètres. Et donc, depuis le 22-23 octobre, je n'ai plus d'animaux sur mon exploitation parce que sinon, à l'heure actuelle, je serais ruiné. Donc, j'ai préféré supprimer tous les animaux que j'avais
alors,
sur mon exploitation.
Disons paysan, parce que c'est vraiment le terme.
Paysan, oui, oui.
Voilà, paysan. Voilà. Agriculteur, ça, c'est le politiquement correct. Et politiquement correct, il y en a marre. Merci beaucoup, bien cher Luc. En face, notre ami Stéphane Le Béchec, paysan aussi.
Oui, moi, paysan, un vrai paysan.
Vrai paysan.
Moi, j'ai toujours aimé ma terre, aimé mon pays. Pour moi, c'est ça, le paysan, l'agriculteur, c'est une autre image.
De Bretagne.
Bretagne aussi. Je suis venu avec Luc. Moi, j'étais le premier à être médiatisé. C'est pour ça que je vous remercie aussi, parce qu'on a eu une chance. Ça fait 8 ans que je me bagarre, moi. On a eu une chance avec les médias. Aucun média n'a déformé ce que j'ai dit ou ce que nous on a dit sur les propos de ce qui se passe. Et on a toujours été soutenus. Et ça, c'est une grande chance parce que vous entendez autour de vous, oui, c'est déformé, c'est ceci. Et aujourd'hui, ce qu'on vit est tellement irréel que, oui, on pourrait interpréter les médias comme des
sur les ondes électromagnétiques aussi.
Sur les ondes électromagnétiques.
Voilà.
Et qui sont surtout le vivant, en fait. Hein. Moi, je parle sur les animaux. J'ai une toute petite ferme. J'ai 40 hectares de terre. J'avais 40 vaches. Bon, tous les vaches font un veau par an. J'avais des génisses, donc un veau. Et j'ai perdu 280 bêtes en 6 ans. Et du coup, j'ai tout perdu. J'ai fait un infarctus le jour de mes 53 ans. J'ai perdu la santé. Et je me suis bagarré depuis 8 ans. Et je rejoins certains propos là, qui viennent d'être dits. Parce que moi, on m'a menacé aussi. Il fallait que je me taise. Il fallait que surtout pas en parler à la presse. Autrement, m'enlever mon troupeau pour maltraitance. La direction départementale de la protection de la population sont venus chez moi, venaient nuit et jour me contrôler et venir m'intimider. Et c'est vrai, quand on a un genou à terre avec des bêtes qu'on voit mourir, j'ai vu jusqu'à 9 bêtes par terre le matin en me levant, c'est très compliqué. Et on vous menace. Moi, j'ai rencontré 9 fois le ministre de l'Agriculture, enfin les différents ministres de l'Agriculture, j'ai rencontré Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où on est dans l'omerta la plus totale. On est livré à nous-mêmes. On est en train de tuer le vivant. Enfin, c'est le vivant, hein, autant les humains que les animaux. Avec, pour le progrès, alors il faut des téléphones, il faut des éoliennes, il faut des lignes à haute tension. Mais il y a un dysfonctionnement. Et aujourd'hui, il n'y a aucune recherche. Et donc, tant qu'il n'y a pas de recherche, donc il n'y a pas de réponse scientifique, donc il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de réponse scientifique, ça n'existe pas.
Merci beaucoup, cher Stéphane. On va parler dans la troisième partie, on va faire une grande partie là-dessus, sur ces ondes magnétiques, électromagnétiques, parce que, voilà, il faut dire les choses. Moi-même, avant d'interviewer un de vos camarades, Didier, j'étais pas au courant de la situation, et je pense que beaucoup du grand public n'est pas au courant. Mais à votre... Merci donc, du coup, cher Stéphane. Et à votre droite, Lara Stam, patronne d'émission à Radio Courtoisie, tous les samedis matins de 9h à 10h30, libre au journal de Géopolitique Prune. Comment ça va?
Tout va bien. Merci, Mike, pour l'invitation.
Je suis très content de vous avoir, chère Lara.
Je suis très content de
venir. La touche féminine et la touche sexy et glamour de l'émission.
Merci, merci beaucoup, Mike.
Bon. Vous êtes prête aujourd'hui?
Prochain libre journal avec Laurent...
Ozon?
Non, c'est Laurent Duplessis.
D'accord.
Et Arthur Duplessis. Et donc,
oui, voilà. C'est pas le même. Hein.
Sur le sujet de la Troisième Guerre mondiale.
Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vraiment on nous emmène vers cette Troisième Guerre mondiale?
On est sur des tensions qui ne sont pas du tout superficielles. Je pense que tout le monde les ressent d'une façon ou d'une autre. Je pense aujourd'hui on est dans une forme de veille de quelque chose. Et ça, c'est pas très réjouissant. En tout cas, pas une veille joyeuse.
Merci beaucoup, chère Lara. Voilà, n'oubliez pas le journal de Géopolitique Profonde. Voilà, la version avril, avec Philippe Perlinge, Maxime Corneille, Laurent Ozon et d'autres spécialistes. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est en bas en description. Vous cliquez sur le lien, allez-y. Dis-moi, cher Richard, là, je vois que tu as toutes tes fiches et tout, là, t'es prêt?
vas-y, attaque.
Tiens, mais... Je trouve quand même courageux qu'encore tu te présentes, tu y ailles en 2027. Est-ce que 2027, c'est la date clé?
2027, c'est effectivement un grand tournant. On a 3 ans aujourd'hui pour réussir. Alors quand tu dis tu te présentes, non, je ne vais pas me présenter, figure-toi. Je ne vais pas me présenter. L'idée à travers ce livre et la philosophie attenante, 5 mois de travail, c'était vraiment de me mettre à l'écart, de réfléchir, de conceptualiser le programme, de me pencher sur tout ce qui est rouage de l'État. Pour ne pas être un imposteur dans le domaine, je connaissais déjà le domaine politique, puisque j'étais journaliste, comme tu l'as dit, mainstream pendant des années. J'ai également fait la campagne Fillon en termes médiatiques. Je trouvais que l'homme était, en tout cas le programme de l'homme était respectable. Le message de Fillon me convenait, moi, vraiment parfaitement. En revanche, l'homme et le messager étaient beaucoup plus contestables et il s'est avéré... se suicider quasiment en direct avec toutes ces histoires. L'idée de ce livre, c'était vraiment de réfléchir et de dire, après une période d'action, si tu veux, sur le terrain, où on a été sur les manifs, où on a engendré énormément de mobilisation, énormément d'attentes, on pensait faire vaciller le gouvernement, on pensait finalement prendre le pouvoir à un moment donné, il a fallu un temps, soit peu, pouvoir se mettre à l'écart, réfléchir et pouvoir pondre un programme. Ce que je reproche aujourd'hui, si tu veux, aux politiques, quels qu'ils soient, c'est de se lancer à corps perdu dans une bataille perdue d'avance parce qu'il n'y a pas derrière de programme, il n'y a pas de pensée politique, il n'y a pas de philosophie politique. Donc l'idée, c'est pas que Richard Boutry, dont tout le monde se fout ici, aille seul, le nez au vent, la fleur au fusil, à dire « je vais être président en 2027 ». Je veux dire, ça serait ridicule, ridicule. L'idée, c'est vraiment, à travers ce programme et ce document de travail, pouvoir fournir 50 propositions. 50 mesures.
50 mesures choc, pour le coup. C'est pas des mesurettes.
50 mesures
choc. C'est pas les 100 propositions de François Mitterrand, quoi.
Exactement. 50 mesures choc pour sortir de la matrice actuelle, pour pouvoir faire chavirer tout le système. Et figurez-vous, Mike, figure-toi qu'on va y arriver. On va y arriver si on arrive à fédérer tout le monde. Et l'idée, à travers ce livre, c'est de pouvoir mettre autour d'une table, comme ici, nos amis agriculteurs, également, nos amis paysans, mais également les têtes de pont des partis politiques réellement aujourd'hui dans l'opposition. Parce que ceux qui sont institutionnalisés, je pense au LR, RN, Mélenchon et tout ça, ce sont des partis d'opposition contrôlée. La vraie opposition contrôlée, elle est là. C'est-à-dire que c'est Macron qui a choisi en fait ces partis-là et ces hommes à lui, quelque part, même s'ils apparaissent sous des couleurs différentes, pour constituer en fait sa propre opposition. La vraie opposition, elle est chez nous. Je dis, désolé...
Oui, mais cette opposition, on n'arrive pas à l'unir. Comment on peut faire pour l'unir?
Mais justement, comment veux-tu qu'on l'unisse dès lors qu'il n'y a pas de programme commun? Dès lors qu'il n'y a pas de programme commun. Chacun part, comme ça, à l'aventure, en disant « je serai président de la République », mais ce sur quoi il ne s'appuie sur rien. Il ne s'appuie sur rien de concret et de tangible, de réfléchi et de pondéré. Et je pense que ce livre, qui est un véritable document de travail, c'est ce livre doit être initiateur d'une véritable philosophie politique, de pensée politique pour sortir véritablement du système. Et à travers toutes ces mesures, je montre une voie qui ne demande qu'à être complétée. Et du reste, quand tu regardes le livre, il n'y a pas de point. Alors là, pour le coup, c'était voulu pour que les gens puissent, et j'ai eu vraiment de très nombreux retours en la matière, des gens qui disent « Ah, c'est très intéressant, mais là, dans le point 19 sur la mesure 25, là, je corrigerai ça, je l'amenderai, ça, en revanche, j'y crois pas trop, donc on peut le sucrer. » Et voilà, et donc ce document de travail doit permettre aux leaders des partis aujourd'hui d'opposition, je pense à Philippot, je pense à Asselineau, je pense à Dupont-Aignan, à Poisson, à ces gens-là, de pouvoir venir nous rejoindre à une table des discussions, de pouvoir discuter en fait avec ces gens-là et de pouvoir montrer une face commune de l'opposition. Et je crois que c'est très important. Dans les 150 000 km, je termine juste par ça, 150 000 km que j'ai pu faire en France en l'espace de 2 ans, en grande partie avec Natacha, on s'est rendu compte en rencontrant des gens que les gens voulaient, nous disaient stop maintenant, taper du poing sur la table, stop, maintenant on a besoin d'une opposition commune. On a besoin de gens qui se fédèrent, les égaux, on n'en a plus rien à foutre de savoir si Paul, Pierre ou Jacques va se présenter avec quelques ouailles derrière et faire 2%, on ne veut pas. Aujourd'hui, si on n'est pas de l'opposition contrôlée, on fédère tous ces gens-là qui sont des gens qui ont une expérience politique, dont le message est bon, on peut contester les messagers, mais en tout cas le message est bon, et puis on s'allie avec des grandes figures. Je pense à, par exemple, De Villiers, en qui je me reconnais complètement dans quasiment tout ce qu'il dit.
Mais alors, comment s'est écrit ce livre ?
Alors ce livre, il est écrit d'abord comme un livre-programme, c'est-à-dire que quand tu vas dans un spectacle, bah, tu prends le programme, donc c'est un livre-programme. Il y a toute une partie de rédaction.
J'imagine qu'il y a eu un temps long pour réfléchir à toutes ces propositions, pour la rédaction, pour... Alors, est-ce qu'il y a une commission aussi d'experts ou de gens
Absolument pas. C'est-à-dire, je suis seul à l'avoir lu, je suis seul à l'avoir rédigé. Je me suis penché sur un nombre incalculable de livres blancs, qui sont des livres très difficiles à trouver, qui sont des livres de 800 pages, domaine par domaine, donc domaine administratif, domaine politique, domaine économique, domaine de la santé, domaine de la police, domaine militaire, domaine de l'agriculture, tout ça. Donc j'ai épluché en fait ces livres blancs, ce qui a été un travail d'enfer, et ensuite, grâce à ce savoir-faire journalistique qui est un peu le mien, c'est un peu ma marque de fabrique, j'ai réussi en fait à synthétiser en fait l'ensemble. Et de là sont nées donc des mesures, de ces mesures sont nées des propositions, de ces propositions sont nées une véritable philosophie politique pour sortir de la matrice, pour sortir du système. Mais c'est qu'une des étapes de la fusée, on parlera j'espère des deux autres étapes plus tard.
Mais justement, pourquoi je te pose la question ? Parce que c'est des propositions qui sont, révolutionnaires et d'une très bonne facture. C'est pour ça que je te dis, moi j'avais cru, je pensais qu'il y avait monde derrière, quoi.
Alors non, il n'y a vraiment personne derrière. Natacha, qui partage sa vie avec moi, peut le certifier et le prouver. Il n'y a absolument personne derrière. Il n'y a que moi, c'est le fruit de ma pensée. Cela dit, c'est pas le jeu ici qui prime, c'est le nous. C'est-à-dire que j'offre toutes ces mesures vraiment à la discrétion de la vraie résistance. Qui reprennent, qui pompent, qui se fassent les leurs, en fait, ces propres mesures, qui les complètent, qui les enrichissent et qu'on finisse, bon Dieu, par signer tous ensemble un document commun qu'on va présenter aux Français et on dira, voilà, là, on est tous d'accord là-dessus, à peu de choses près, et on va gagner cette élection 2027. Car 2027, comme tu le disais au début de cette émission, c'est un véritable tournant. Tournant décisif, on a 3 ans aujourd'hui pour le faire, on a 3 ans à s'entendre sur un programme commun, et on a 3 ans à s'allier. Alors que les chefs politiques des différents partis gardent leur parti, certes, mais pour autant, il faudrait qu'ils nous rejoignent dans un bureau, si tu veux, avec les gilets jaunes, avec également les gilets jaunes qui, pour moi, ont une place vraiment prioritaire, avec des émissaires des gilets jaunes. On ne peut pas tous les mettre les millions autour de la table, bien entendu. Mais en fait, avec des gens qui ont une véritable légitimité. Je pense à JC, qui est à Toulon, qui est une personne absolument formidable, et bien d'autres, qui viendraient nous rejoindre dans ce bureau constitutif, avec des représentants des mouvements citoyens, bien sûr des paysans, bien sûr des journalistes, comme Madame, qui est une façon de penser quand même un peu singulière, et tout le monde autour de présentateurs comme toi, de pouvoir essayer. Alors, j'en ai parlé, si tu veux, déjà hier, où j'étais invité chez Carlo Bruza, qui est un type formidable aussi, m'a reçu, était assez dubitatif en fait au départ, il ne savait pas très bien où il mettait les pieds, voilà, et il a été vraiment conquis, véritablement conquis. Natacha peut le certifier, il nous a appelé à plusieurs reprises, il dirait « je serai ton homme pour fédérer l'ensemble et pour essayer de constituer ce maillage qui nous manque aujourd'hui, cet amalgame entre les différentes personnalités aujourd'hui de l'opposition, qui se refusent à pouvoir collaborer, même si le mot collaborer, c'est un mot que j'aime pas, mais à pouvoir, en tout cas, se regrouper.
Mais ce qui est bien avec ce programme, c'est que c'est pas un programme de droite, de gauche, c'est hors parti. Je veux dire, chacun, avec sa sensibilité, peut s'y retrouver.
Exactement. Tu sais, moi, déjà, dans l'esprit, je suis comme madame, c'est-à-dire, je suis journaliste. Journaliste, j'ai jamais pris parti ou pour l'un ou pour l'autre. J'ai été toujours centriste, dans des rédactions qui étaient très à gauche. J'étais le plus à droite des rédactions de gauche. Pour autant, j'ai jamais été ni Front National, ni extrême gauche, ni rien. J'ai trouvé qu'il y avait des choses bonnes au centre, et j'étais dans une philosophie un peu, et on en parlera, chrétien-démocrate, tu vois, un peu à la CDU en Allemagne. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est au centre, dans la justice, dans la paix. Et dans le discernement.
Et dans le spirituel.
Et dans le spirituel. Alors le spirituel, c'est vraiment une partie extrêmement importante de mon programme. Parce que si tu veux, je pense que c'est une fusée à plusieurs étages. Et dans cet étage-là, il y avait effectivement au début la contestation avec beaucoup de passion, de virulence. On a parlé à travers toutes ces manifestations qu'on a animées, toi comme moi, un peu partout en France. Ensuite, il y a eu le temps de la réflexion. Ensuite, il y a le temps politique. Et ensuite, il y a le temps spirituel. Et je pense que la véritable révolution, elle sera d'ordre spirituel. Et que sans spiritualité, ça ne se fera pas. Toutes les grandes civilisations sont nées avec les spirituels. Toutes les grandes civilisations sont mortes par absence de valeurs et par absence de bien commun, si tu veux. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le wokisme, le transhumanisme, avec des idées qui sont complètement uberluesque, et je pense qu'il faut ramener l'Église au milieu du village. Alors l'Église au sens large du terme, moi je suis chrétien, croyant, fier de l'être, et je suis vraiment un militant pour la foi, j'arbore fièrement vraiment ce chapelet autour du cou, et on prie, et je prie beaucoup, mais je pense que c'est pas pour autant que les gens non-croyants, toi, j'écoute beaucoup Jean d'Ormesson par exemple, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans son positionnement, qui était assez neutre, quelque part, c'est pas un militant de la foi.
Mais la croix que tu portes, c'est pas très république, ça, hein.
Alors justement, je pense que la laïcité aujourd'hui, c'est une des mesures que je conteste largement. Non pas que la laïcité n'ait pas été bonne en 1905, mais aujourd'hui, la laïcité est tombée dans le laïcardisme. C'est-à-dire que au nom très clairement de la franc-maçonnerie, qui aujourd'hui décide de tout, régit tout, notamment les lois bioéthiques, aujourd'hui, avec ce bras armé de la franc-maçonnerie, le gouvernement qui utilise ce bras armé, aujourd'hui, est en train de flinguer littéralement toutes les religions, non seulement est en train de flinguer toutes les religions, mais en train de monter les juifs contre les chrétiens contre les musulmans, et ainsi de suite. Tout ça pour faire émerger une nouvelle religion qui s'appelle aujourd'hui très clairement le relativisme et qui nous conduit aujourd'hui à notre perte et surtout à la perte de nos enfants. Parce que ce que j'aime beaucoup moi chez les paysans hein, et ce que je respecte d'abord et avant tout, c'est vraiment cette façon extrêmement ancrée qu'ils ont, et ils le diront beaucoup mieux que moi, mais dans la terre si tu veux. Ils ont ce sens des valeurs, ils savent d'où ils viennent, ce qu'ils font à un moment T, et où ils vont. Et aujourd'hui, le vrai problème avec ce gouvernement, c'est qu'il nous casse toutes les structures, il nous casse notre mode de pensée, il nous subvertisse, et aujourd'hui, il nous détruise, non seulement nous, mais également toute la civilisation. Et c'est pas possible.
Est-ce qu'on arrivera en 2027 ? Est-ce que 2027, c'est pas trop tard ? Parce que, regarde, là, la dette est faramineuse, on est chaque année, enfin, je veux même chaque semaine, on est de pire en pire. Est-ce que 2027, c'est pas trop tard ? Est-ce qu'il faut pas agir avant ?
Alors, 2027, si tu veux, c'est 3 ans. 3 ans, c'est rien. C'est rien pour essayer de faire connaître notre voix. Je pense que cette télévision, et je vois le décor incroyable qui est ici, et le professionnalisme des équipes, et le tien, je pense qu'à travers un média fort, ce que moi j'ai tenté de tenter avec la montée avec Natacha et puis bien d'autres sur la Une TV, malheureusement, pour des questions financières, on n'a pas réussi à aller au bout de notre aventure. Et puis on s'est fait rouler dans la farine par des faux investisseurs qui, bien sûr, étaient de l'opposition contrôlée, nous ont promis mons et merveilles. Et finalement, on n'a pas réussi. Je pense qu'il fallait un média fort. Toi, tu constitues un média fort aujourd'hui. Si on s'appuie sur un média fort, 3 ans, ça sera suffisant. Mais crois-moi, 3 ans, il faudra vraiment retrousser nos manches et pouvoir réussir.
Bien sûr, mais
le temps de mettre tout le monde d'accord et de faire connaître
le programme. Mais est-ce que 2027, la France existera encore ? C'est ça le truc. C'est ça une forme d'inquiétude qu'ont les gens.
Tu sais, j'ai 2 exemples extrêmement rapides à donner, deux exemples que j'aime bien citer. Je suis franco-sénégalais un peu, parce que le Sénégal, c'est mon pays d'adoption, mon pays de cœur. J'ai vécu au Sénégal pendant 7 ans, et donc je connais par cœur ce pays.
Et figure-toi, président aujourd'hui.
Et ouais,
à la place de Macky Sall.
Exactement. Voilà. Et le type qui s'appelle
Ousmane Sonko et Monsieur Faye.
Et Monsieur Faye, exactement. Et Faye, il y a encore quelques semaines, était en prison. Il y a quelques mois, si on lui avait dit. Si lui avait dit « je serais président de la République dans un pays que je connais par cœur », qui est, complètement bouffé par les castes, par des problèmes religieux, par des problèmes politiques, par l'Occident qui regarde l'Afrique maintenant d'un œil, bien sûr, très attendri et vorace, parce que l'idée, c'est quand même de bouffer l'Afrique de l'intérieur. Les Français n'ont pas réussi à le faire, et donc maintenant, on mise sur d'autres pays pour le faire. Et donc, l'Occident est très regardant par rapport à tout ce qui se fait en Afrique. Et donc, crois-moi que cet homme qui a réussi à passer à travers les mailles du filet et à s'imposer comme président de la République sur place, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et c'est un type qui, justement, est empli de foi, et sa foi, qui n'est pas forcément la mienne, mais c'est sa foi. Et les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est ça, plus proche de nous. Il y a un autre modèle que je regarde de très près et que je vais aller voir très tôt, j'ai du reste pris contact avec eux, c'est l'AFD en Allemagne. Un parti qui aujourd'hui est crédité de 30% des voix, un parti qui a été comme celui de Florian Philippot, il y a de cela 5-6 ans, qui était crédité de 2-3%, qui a surfé sur la crise sanitaire pour se faire connaître et pour vraiment monter en charge et en puissance, et qui aujourd'hui est crédité de 30% en Allemagne. 30%, c'est-à-dire que lors des prochaines élections, ce parti, l'AFD, serait susceptible de pouvoir gouverner seul dans un pays où on sait que c'est un pays de coalition. Et actuellement, c'est une coalition qui est au pouvoir et qui n'a que 12% en Allemagne. Alors, 12%. Donc tout est possible. Je pense qu'on réussira.
Ma dernière question, et il faut réussir. Ma dernière question, et on passera au grand débat avec tous les intervenants qu'il y a autour de la table. Est-ce qu'il faut peut-être soutenir des gens aux européennes ? Est-ce que justement tu vas soutenir des gens aux européennes ? Est-ce que tu vas faire campagne pour les européennes ? Ou t'attends que ça passe ?
Tu sais, j'ai une image qui est très claire. Quand tu es pour la protection des animaux, tu fais pas de tauromachie. tu mets pas un pied là où tu ne veux pas aller. Donc c'est très difficile pour moi de concevoir qu'on est pour le Frexit et d'aller dans l'enceinte, sinon pour constituer une forme d'opposition contrôlée. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien pouvoir identifier mes ennemis, les combattre de face, pouvoir vraiment les avoir face à moi, mais pas faire des petits jeux de pseudo-alliance ou autre. Donc, si tu veux, je respecte les gens qui y sont. Moi, j'aime beaucoup Francis, Lalanne, Florian Philippot et tout ça. Mais je ne partage pas leur vision des choses sur les européennes. J'espère que dès que les européennes seront passées, on pourra tous s'unir pour pouvoir se lancer dans cette véritable élection, qu'est l'élection présidentielle.
Merci à toi, cher Richard. On va passer au grand débat avec tous nos intervenants, mais avant ça, les petites annonces.
Soutenez l'information libre. Connaissez-vous l'affaire Jean-Michel Trogneux ?
Peut-être.
Géopolitique profonde a besoin de vous.
Les idées dissidentes vous font-elles aller en prison comme du temps de l'URSS ?
Pour libérer la parole, cliquez sur le lien en description.
Soutenez-nous, continuez à nous soutenir. Si vous voulez des émissions telles que l'on fait ce soir et telles qu'on l'a fait avec sur notre ami Jean-Michel, eh ben voilà, vous nous soutenez, vous faites un don, vous allez sur le Tipeee Stream et en plus vous aurez une petite surprise. Donc allez-y, on n'existe que grâce à vous. Voilà, on n'existe que grâce à vous, il faut le dire. Donc je donne la parole à notre ami Luc. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, sur ce que vous avez entendu, cet entretien avec Richard, voilà, l'union, c'est ce qu'il faut ?
Tout à fait, oui, il faut de l'union, ouais, et après, moi, au niveau politique, je m'en occupe, c'est pas ma tasse de thé, forcément, donc, mais je suis d'accord avec toutes ces idées, hein, de toute façon, c'est ce qu'il faut, et puis, il est temps que ça change aussi, de toute
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la paysannerie française ?
De l'union et aussi de l'entraide. Il n'y a plus d'entraide. Chacun attend que le voisin crève, si je peux dire.
C'est comme ça ?
Oui, de plus en plus, ouais, pour récupérer les terres cultivables à côté. Donc, il n'y a plus d'entraide. C'est tout. Ça devient comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a. Ouais, c'est une catastrophe.
Parce que pour les citadins que nous sommes, il y a encore cette image d'Épinal sur la campagne à l'ancienne, tous ceux qui. Ça, c'est fini.
C'est fini, peut-être pas partout, mais dans la plupart des régions, principalement. Moi, je suis de Bretagne et je vois ça principalement en Bretagne. Je vois bien que ça, c'est fini quasiment sur toute la Bretagne. Il y a peut-être encore des coins de Bretagne où il y a encore de l'entraide, mais quasiment partout, c'est. On attend que le voisin crève au niveau de son exploitation pour la récupérer, quoi, pour s'agrandir tout le temps.
Merci beaucoup, cher Luc. Cher Stéphane, vous confirmez ?
Oui, je rejoins complètement Luc. En fait, les campagnes ont changé par l'appât du gain. Et aujourd'hui, plus on a une grosse ferme, plus on a une grosse exploitation, plus on a des beaux tracteurs. Aujourd'hui, même la Bretagne est arrivée dans un système fou, parce qu'avant, dans les années, il y a une trentaine d'années, en fait, nous, quand on cherchait une moissonneuse, on venait la chercher dans la Beauce. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est la Beauce qui vient de chercher les moissonneuses chez nous, parce que les nôtres sont plus grosses que les leurs, alors qu'on n'a pas les mêmes surfaces. Tout est déconnant. Aujourd'hui, la Bretagne est devenue un pays où on veut que tout brille. Aujourd'hui, on les voit manifester, mais vous avez vu l'état des tracteurs. Aujourd'hui, pour un tracteur de 200 chevaux, c'est 200 000 euros. C'est 1 000 euros du cheval. C'est énorme. Alors après, il y a des surendettements, mais tout ça, ce surendettement oblige à récupérer des surfaces supplémentaires pour pouvoir avoir du gain et du profit supplémentaire. Alors aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas indépendants, en fait. Je dis bien les agriculteurs, parce que les paysans ne sont pas dans ce même monde, pas tout à fait dans cette même.
Aujourd'hui, il y a plus d'agriculteurs ou de paysans ?
Agriculteurs. Ceux qui représentent la FNSEA, en gros.
Les syndicats, quoi.
Oui, mais on est à. Tous ces gens-là veulent plus, quitte à crever avec ce qu'ils ont. Ils n'arriveront jamais à manger et à consommer ce qu'ils ont gagné. Mais ça n'a pas de sens. Et avant, dans nos campagnes, il y avait les battages, il y avait les betteraves, il y avait besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le matériel fait le travail. Donc, il n'y a plus besoin de grandes corvées, il n'y a plus besoin de grands repas festifs, parce que quand on faisait les battages, on faisait forcément le repas le midi, enfin à 10h, à midi, à 16h, et le soir, on faisait la fête. C'est fini, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, la population agricole est quand même, et paysanne aussi, a diminué énormément. Le pourcentage de paysans, il est très très faible aujourd'hui. Ça ne représente plus rien par rapport à ce qu'il y avait il y a 30 ans encore. Quand on parle aujourd'hui, il y a presque 10% de la population agricole qui doit prendre sa retraite dans les 5 années à venir. Donc ça va très vite. Hein.
Cher Lara, quand t'entends ça, là, tu te dis qu'il n'y a plus de solidarité, même entre paysans, dans le monde rural, c'est plus solidaire.
Quand j'entends ça, j'ai envie de vous dire, Richard, on n'a pas 3 ans. On n'a pas 3 ans au rythme où il y a les suicides dans le monde agricole. On ne peut pas laisser aujourd'hui ce pouvoir pendant 3 ans. Mais vous voyez au rythme où ils vont avec les réformes, les lois abominables qu'ils font voter. Mais 3 ans, c'est une éternité aujourd'hui. C'est ce cri d'alarme que j'ai envie d'exprimer. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, malgré tout, les Français sont sensibles à une représentation physique d'un programme. Ils veulent un programme, effectivement, mais ils sont très sensibles, justement, à l'homme providentiel. Et ne pas vouloir porter son propre programme ou ses réflexions, c'est quelque part...
Tu veux dire, c'est-à-dire que Richard devrait dire, voilà, oui, c'est mon programme
devriez,
et j'y vais.
Oui, vous devriez. C'est quelque part la suite logique de quelque chose. Aujourd'hui, ce que je comprends de votre livre, que je n'ai malheureusement pas eu avant l'émission, c'est plutôt un livre de doléances.
C'est un programme, mais tiré des doléances.
Il y a un constat, si vous voulez, un constat de base, mais il n'y a surtout que des propositions. C'est extrêmement positif.
Oui, oui.
Justement, pour sortir de la matrice, on peut pas. Mais je pense que pour répondre à votre question, si je peux me permettre, c'est vraiment aujourd'hui un château de cartes aujourd'hui qui nous gouverne. C'est un système qui est à la fois hyper canassé, hyper verrouillé, hyper militarisé, hyper policé, donc dont on imagine en fait qu'il est insubmersible, et pourtant, c'est un château de cartes. Pourquoi ? Parce que c'est que du fake. Parce que c'est que de la com.
Oui.
Parce que c'est que de la foutaise qu'il y a derrière. Et donc, on va pouvoir, en un souffle de prise de conscience, mais grâce à l'aide spirituelle dont on a besoin et auquel il faut avoir recours, à laquelle il faut avoir recours, on va réussir à faire chuter ce système. Et c'est la raison pour laquelle on les inquiète énormément aujourd'hui et qu'il y a tout ce pouvoir de coercition qui a été lancé contre nous, également contre les agriculteurs.
Mais justement, qu'est-ce que tu penses du fait que on a changé de mentalité, même à la campagne ?
Mais si tu veux, ça fait partie d'une certaine forme d'isolement, si tu veux. On cherche, à travers le système, à nous isoler. On cherche à remembrer. On cherche à détruire, on cherche à ruiner, on cherche à faire mourir les bêtes, on cherche à faire mourir ceux qui nous a nous-mêmes nourris, si tu veux. Et aujourd'hui, c'est un système ultra pervers qui a été mis en place, poussé à l'extrême, à travers toute une politique, notamment d'urbanisation, qui consiste à faire en sorte que les gens soient recentrés vers les villes, convergent vers les villes, où seules les villes offrent aujourd'hui des pôles attractifs et quelque part un peu d'argent, même si on est tombé dans l'ubérisation et que les salaires sont misérables aujourd'hui. On fait quitter les gens des campagnes pour les migrer vers les villes. La transhumance, en quelque sorte, si je puis me permettre l'expression, doit être complètement inversée. Et c'est la raison pour laquelle des 13 régions dans mon livre, pour parler d'une mesure très concrète, des 13 régions actuelles qui existent en France, je veux faire 22 provinces. 22 provinces qui soient musclées avec une sorte de système un peu à l'allemande, si tu veux, avec les Länder.
Les Länder.
Voilà, et donner du pouvoir aux régions.
Je pense que c'est bien. De toute façon, cette réforme qui a fusionné les régions a été quelque chose de pas du tout attendu par les Français. Donc, comme beaucoup, beaucoup de mesures qui étaient plutôt à destination de découpage électoral, de répartition de richesses entre différentes régions. Donc, en fait, les Français ne sont plus dupes de cette instrumentalisation, ne serait-ce même des noms de nos régions ou de...
Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord. Ils ne sortent pas là-dedans. Et il y a un autre élément ultra important que je donne dans le livre, du reste, c'est que la France, figure-toi, est le pays au monde au monde, je dis bien, où il y a le plus d'élus. Le plus c'est d'élus.
600 000.
Et là, on veut créer les conseils territoriaux. Bon, enfin bref, c'est encore un autre truc.
À chaque fois, on nous a annoncé qu'il y aurait moins d'élus parce qu'on a fusionné, on a mis les métropoles, les intercommunalités. Mais ça a créé plus d'élus encore parce qu'à chaque fois, il y avait 2 sièges. Et en fait, c'est un foutage de gueule depuis des années. On marche.
Alors, je voudrais poser une question à nos deux amis paysans qui sont là. Est-ce que vous pensez... chacun répondre. Hein. Est-ce que nous avons 3 ans devant nous ? Est-ce que nous avons 3 ans devant nous ? Ou 3 ans, c'est trop tard ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Personnellement, moi, dans mon cas, avec la situation que j'ai par rapport au problème des ondes électromagnétiques, non. Sur l'ensemble de l'agriculture, non plus. Il va falloir agir tout de suite parce que il ne va plus y avoir d'agriculture en France. Moi, j'estime que d'ici 4 ans, 5 ans, il ne va plus y avoir d'agriculture en France, plus d'élevage. Pourquoi ? Il y aura une ferme tous les 15-20 kilomètres. Pourquoi ? Parce que c'est sous l'égide de l'Europe, en lien avec le gouvernement actuel, et puis en lien avec la FNSEA, les chambres d'agriculture, tous les organismes agricoles font tout pour nous liquider, c'est tout. Et je ne sais pas si tu es d'accord, Stéphane, avec ce que je dis, mais bon...
Il nous reste 3 ans, Stéphane.
Alors moi, je vais le faire peut-être à l'envers, comme je dirais, mais 3 ans, c'est exactement le temps... Ça fait 3 ans que j'ai fait mon infarctus, le jour de mes 53 ans. C'est le temps pour être mis en invalidité aujourd'hui. Ça veut dire que le temps de la vie est compté. La vie de famille aussi. Et je crois qu'il faut être... C'est le jour le jour. Donc 3 ans, c'est une éternité. Pour celui qui souffre, c'est une éternité. On est à l'agonie, hein, faut pas. Enfin, on voit ça peut-être de très loin, de Paris par rapport à chez nous, mais c'est surtout de la France que le problème qu'on expose existe. Moi, je suis peut-être le plus impacté parce que je suis le seul à ma connaissance à avoir fait un infarctus. On connaît un jeune qui est décédé quand même aussi, mais bon, voilà. Mais non, il y a urgence. C'est pas 3 ans, c'est je sais même pas où c'est pour moi. Je peux pas me projeter à 3 ans. Je sais même pas si je serai encore là.
Qu'est-ce que t'en penses, Richard ?
Je pense que c'est effectivement salutaire et on vit cette situation extrêmement difficile de part et d'autre et tous les gens qui nous regardent là aujourd'hui doivent se dire effectivement 3 ans c'est une éternité. Mais 3 ans pour penser un programme politique commun, 3 ans pour se faire connaître. Aujourd'hui on représente quoi ? On représente strictement rien. On est 3 ans pour faire connaître la chaîne, pour que ta chaîne que tu as montée avec 30 000 personnes qui sont devenues 300 000 là, quasiment aujourd'hui, pour que cette chaîne existe et prenne un véritable essor, pour faire connaître la voix des paysans, pour faire connaître les voix journalistiques alternatives et tout ça, 3 ans, malheureusement, c'est un plan. Il faut, nous aussi, avoir notre propre plan. Il n'y a pas que Clochefab qui a droit d'avoir un plan. Nous aussi, on a droit d'avoir un plan. Et je pense que ce plan est retracé dans ce grand virage 2027. Alors, c'est un plan, mais je veux dire, si bien sûr on peut faire sauter les verrous avant, on n'y manquera pas de le faire, si tu veux. Mais je pense que quand même, aujourd'hui, on est dans un système qui est tellement difficile à contourner et tellement verrouillé qu'on va pouvoir le faire dès lors qu'il y aura une prise de conscience collective de toute la population. Quand on est venu tout à l'heure avec Natacha en métro, venir ici à Boulogne-Mignancourt dans tes studios, eh bien, combien de gens nous ont fait « allez-y, allez-y, allez-y ». Mais c'est malheureusement pas suffisant. Aujourd'hui, toute la France devrait faire ça. Et pas à moi, Richard Boutry, ou à Natacha Luoviac. Non, bien sûr que non. Mais à tous ces gens qui se battent bec et ongles dans leur coin, avec leurs forces respectives, dans leur domaine respectif, et qui aujourd'hui font évoluer les choses. On doit se mettre en collectif aujourd'hui, plus que tout. Et si on y arrive, alors à ce moment-là, il peut y avoir un ciment, il peut y avoir un élan. Tu sais, c'est comme, j'ai eu la chance de participer au lancement des fusées, notamment à Kourou, en Guyane. Et quand j'ai commenté ça de la salle Jupiter, je voyais donc la 501 qui s'est plantée. Et nous, on est un peu dans cet état-là aujourd'hui. On est vraiment dans un état catastrophique. Et j'ai vu la philosophie qui était utilisée, en fait, par les ingénieurs pour reconstruire une fusée et pour repartir de l'avant. Eh bien, malheureusement, il fallait un temps certain pour pouvoir mettre la fusée, la concevoir, mettre les moteurs, alimenter les moteurs, enlever les scories qui, malheureusement, existent aujourd'hui, mettre ensuite la fusée sur
un pas de tir et ensuite allumer le moteur et réellement faire en sorte que la 502 et la 503 et la suite fonctionnent très bien. Et ça, je pense que c'est super important de faire ça. Donc, il faut un plan. Et ce plan, il existe dans le Grand Virage 2027. Et j'invite les téléspectateurs à aller voir legrandvirage2027.fr parce qu'il y a des éléments dessus. Et acheter, bien sûr, ce programme. Même si, encore une fois, je fais pas la pub pour moi à titre perso parce que je touche rien là-dessus. Tu vois, donc les gens qui disent, ouais, il veut se faire du blé sur le programme et tout ça. Si t'as des commentaires comme ça, bah, tu peux leur dire que zéro. Parce que je le vends 9,50€. 9,50€, c'est le prix du papier, de la conception, de la réalisation, de la promotion. D'accord? Donc, je touche pas un centime là-dessus, sur ce bouquin. D'accord? Je vais même perdre de l'argent et 5 mois de travail. Je m'en fous. J'offre ça à la collectivité. Et voilà. Et je pense qu'on n'a qu'une chance à faire aujourd'hui, c'est pouvoir, aux côtés des paysans, aux côtés également des industriels, parce que, si tu veux, les mamelles de la France, elles sont de 3. On parlait de 2 à l'époque de Pompidou, si tu veux, il y avait l'agriculture et l'industrie. Aujourd'hui, elles sont de 3. Il y a l'agriculture, l'industrie et également la technologie. Et dans les 3 domaines, on est complètement à l'abandon aujourd'hui. Complètement à l'abandon, on est complètement ruiné, quoi. Ça va pas. Donc, il faut réindustrialiser le pays, il faut redonner, effectivement, les terres aux paysans, il faut arrêter ce démembrement. Et on l'a très bien entendu, il faut arrêter également, et j'espère qu'on en parlera, ces tours, et je ne donne pas le nom ici, parce que la chaîne va sauter à chaque fois. Et M. Auffray est bien placé pour le savoir, parce que j'ai fait un nombre de vidéos très importantes sur justement leurs gros soucis aujourd'hui. Ce sont ces tours qui, à la façon Tour Montparnasse, qui font 280 mètres de haut, qui aujourd'hui gangrènent nos campagnes, fleurissent à tour de bras, et vont plus vite aujourd'hui que ces fleurs au printemps qui...
On va parler très vite de cette pollution électromagnétique qui tue nos élevages et qui tue nos paysans.
Il faut le dire, oui.
J'ai appris que au moins 25 000 exploitations sont touchées par cette pollution électromagnétique. Mais avant ça, cher Lara, est-ce qu'on peut sauver la France ou est-ce que c'est fini? Parce que beaucoup me disent, ah, c'est fini, c'est terminé,
Alors, attend que ça se passe. Moi, ce qui me surprend dans ce qu'on entend quand on parle de l'agriculture française, quand on parle du savoir-faire français... Il ne faut pas oublier qu'un des milliardaires des plus connus, des plus en vue sur la planète, est quelqu'un qui a fait sa fortune sur le Made in France, sur la valeur ajoutée qu'apporte cet estampillage fait en France. Et c'est hallucinant de voir qu'avec cela, on se retrouve à vouloir supprimer ce savoir-faire qui est ancestral, qui est transmis de génération en génération. On n'a pas besoin des instructions données par l'administration pour savoir quand il faut arroser, quand il faut... Enfin, et vous avez ces instructions. Tout est fait pour détruire, en fait, quelque chose qui a une valeur inestimable. Parce que le monde entier prend cette étiquette « fait en France » comme une valeur ajoutée. Et donc, voilà, ça me surprend et ça me désole parce qu'on est presque les seuls à ne pas le savoir. Mais les milliardaires, eux, ils savent. Hein. Ceux qui font fortune, et je suis désolée, ils ne font pas fortune de leur savoir, comment dire, intellectuel, ni de... C'est pas, voilà, à la sueur de leur front qu'ils obtiennent ces cotations en bourse. C'est juste sur le fait que c'est fait en France. Donc, à nous aussi de nous ressaisir, à dire...
Oui, mais il n'y a pas une volonté... Alors ça, je pose cette question au plateau. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de tuer ceux qui travaillent, dont les paysans qui sont ici présents, pour permettre, par exemple, aux Ukrainiens de nous envoyer leurs produits?
Mais tout ça, ça rappelle encore une fois le système soviétique. Hein. C'est-à-dire, vous ne posséderez rien et puis vous aurez un revenu universel. De l'ingénieur à l'ouvrier, tout le monde percevait le même salaire. Hein. Faut savoir. Donc, que vous fassiez 10 ans d'études avec un doctorat, vous aviez 20 roubles de rajout seulement. Hein. Sinon, l'ouvrier aussi gagnait pareil. Et on va vers ce système, malheureusement. C'est-à-dire, ils vont supprimer les koulaks, c'est-à-dire les paysans, l'équivalent des paysans aujourd'hui, qui savent travailler la terre, qui savent la fructifier, qui en tirer un revenu, pour arriver vers des industries où il n'y a plus une âme, enfin, on est concurrencé par l'Ukraine, où, enfin, les pesticides et tout ça, ça fait belle lurette que ça pose pas de problème, sans parler même des terres radioactives. Enfin, il paraît qu'il y a des graines qui ont été dispersées en Pologne, des oiseaux les ont mangées et ils en sont morts. C'est peu rassurant pour ce qui arrive.
Parce qu'il y a quand même...
Donc moi, je ne veux pas...
J'ai eu nos deux amis avant l'émission, on en a parlé. C'est coton, mais on va en parler tout à l'heure. D'abord, je veux vraiment parler du fait comment... Parce que la question, c'est comment on prend le pouvoir. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous, par exemple, vous avez peut-être des idées de comment on prend le pouvoir ?
Alors moi, par rapport au programme,
c'est voilà, clair, par rapport au programme,
c'est,
déjà.
Je reviens par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, ma vision à 3 ans, je ne l'ai pas. Ça, c'est personnel. Par contre, s'il n'y a pas un programme, qu'est-ce que vous voulez construire ? S'il n'y a pas l'architecte pour construire le bâtiment...
Richard a raison de faire ce programme.
Bien sûr.
Il n'y a pas les plans.
Et les idées, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, mais elles sont à débattre. Tout le monde n'a pas raison ou tort. C'est un mélange des genres qui fait qu'on arrive à faire un résultat convenable pour tout le monde. Aujourd'hui, le système du monde agricole aussi. Aujourd'hui, quand on parle des paysans, le paysan sait arroser quand il a besoin, quand il manque d'eau. Par contre, l'agriculteur, aujourd'hui, sans son technicien, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut mettre des pesticides sur ses produits. Le truc, il est plus vicieux que ça. C'est les semenciers. On fait des graines qui sont peu résistantes aux maladies, donc on est obligé de les traiter. Si on gardait nos vieilles graines, comme nos anciens gardaient les semences d'une année sur l'autre, les leurs, ils n'achetaient pas à la coopérative. Donc ces semences-là résistaient à toutes les maladies. Mais elles n'étaient pas rentables pour ceux qui voulaient se faire du business. Donc aujourd'hui, on rend les graines, les semences fragiles pour pouvoir leur donner des médicaments, en fait. En gros, c'est ça. Et c'est tout ça qui a changé. Mais on ne pourra jamais... je ne pense pas qu'on pourra changer, parce qu'on a tellement évolué ce monde paysan. Là. Aujourd'hui, le technicien... c'est plus l'agriculteur qui dit quand je traite ou quand je traite pas. À côté de chez moi, les pommes de terre pour faire les chips, ils sont traités 22 fois quand même. Vous vous rendez compte? 22 fois. Les haricots, ils sont traités 8 fois. Ils sont traités la veille d'être ramassés pour tuer les limaces et les escargots et les souris pour pas les trouver dans les chaînes de surgélation. Mais c'est de la folie douce. C'est de la folie douce. Mais ça, c'est le monde agricole qui le veut. C'est les grosses firmes et les gros financiers qui veulent ça. Mais c'est la mort du monde agricole au détriment peut-être de d'autres pays. Ça, c'est
mais le fait de tuer aussi le monde agricole, ça tue aussi tout le reste de la population. Il faut se le dire, hein, parce qu'on est tous liés. Hein, plus ou moins, Charles-Luc, on est tous liés dans ce pays. On n'est pas juste.
Tout à fait, oui. Derrière, s'il n'y a plus d'agriculture, il y a quand même 3 millions de personnes, je crois, qui vivent grâce à, qui ont un métier grâce aux agriculteurs. Derrière, s'il n'y a plus d'agriculteurs, ça fera des chômeurs en plus. Qu'est-ce que feront ces gens-là? On ne sait pas. Et derrière, il y aura encore des chômeurs de plus.
Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois. Ce plateau, ces gens qui disent voilà, il n'y a pas 3 ans, et puis si nous on meurt, ça fait 3 millions de personnes. Les agriculteurs, ils connaissent plus la terre. Qu'est-ce que tu quand t'entends tout ça?
Si tu veux, c'est vraiment un sentiment de désolation qui me remplit, et c'est un constat vraiment d'échec total de ce gouvernement aujourd'hui.
Et gouvernement ou c'est pas depuis X années quand même?
C'est depuis X années, mais ça a été accéléré par ce gouvernement, largement par ce gouvernement, qui agit, on sait, sous l'emprise de l'Europe, qui elle-même dépend bien sûr de la politique américaine aujourd'hui. Cette identité, cette souveraineté, on l'a complètement perdue en France aujourd'hui. Quand j'entends ça, un, c'est un sentiment de désolation, deux, c'est un sentiment de se dire aussi que on a tout l'espace devant nous aujourd'hui pour reconstruire. On doit repartir de l'avant. On doit redonner espoir, en fait, à toutes ces populations qui elles-mêmes nous font vivre aujourd'hui et qui sont dans une détresse énorme. On doit être solidaire. Et je pense qu'en France aujourd'hui, il y a un véritable mouvement solidaire auprès de ces populations-là. Malheureusement, on pensait que le salon de l'agriculture allait constituer une forme de basculement et que les agriculteurs allaient pouvoir faire entendre leur voix encore plus qu'elles n'en ont été. Le pouvoir en place, avec la presse et le relais de la presse, a réussi à éteindre l'incendie.
Est-ce qu'il y a de la solidarité? Nos amis paysans nous disent qu'entre eux, ils ne sont pas solidaires? Est-ce que nous, déjà, les citadins, on est même, nous-mêmes solidaires? Est-ce que même dans cette fameuse opposition, on est vraiment solidaires?
Bah, tu sais,
bah, j'ai pas l'impression.
Je vais pas monopoliser la parole, mais simplement, dans le milieu, il y a une organisation qui est absolument terrible et que j'ai découvert de l'intérieur, qui s'appelle la FNSEA. FNSEA, c'est maqué avec, là aussi, alors, je suis désolé d'insister là-dessus aujourd'hui, mais peut-être que tu m'en donnes l'occasion.
Vas-y.
De la franc-maçonnerie. Elle est minée par la franc-maçonnerie, il faut le dire. Il n'y a pas que dans le domaine laïcard, dans le domaine spirituel et tout ça qu'elle agit. Elle agit dans les contingences mêmes des strates de l'État français aujourd'hui. Et à travers les corps intermédiaires, que sont notamment les syndicats, on le voit sur les retraites, on l'a vu sur les retraites, on le voit aujourd'hui avec les paysans ou les agriculteurs, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que ce sont des corps intermédiaires qui, mandatés par le gouvernement, aujourd'hui étouffent systématiquement l'incendie et profèrent des menaces sur des paysans comme on a ici ce soir à cette table, dont le travail est extrêmement louable. Et donc, je suis désolé, mais la maçonnerie qui représente aujourd'hui 300 000 personnes en France contrôle 99% du pouvoir ambiant. 1% des milliardaires tiennent 99% de la planète aujourd'hui. Il est temps, chers amis, que ça change. Mike, il faut faire changer les choses, il faut renverser la table.
Moi, je pense que le salon de l'agriculture a été quand même quelque chose de très traumatisant pour le pouvoir. Parce que juste derrière, il y a eu ces techniques de communication. Parce que samedi, on a vu ce qu'on a vu à la télévision, et pas que nous. Le monde entier a vu qu'il y a un président qui ne peut même pas se déplacer dans un salon, qui est à la limite d'être exfiltré par moment. Ils ne savent même pas s'ils arriveront à l'exfiltrer. On a quand même vu ces images-là. Pas que nous, la planète entière. Il a fallu 48 heures à ce pouvoir pour que le lundi suivant, Macron nous annonce qu'il va participer, qu'il va envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc c'est le jeu, justement, de divertir, enfin, vraiment changer complètement de sujet et passer à un autre sujet encore plus traumatisant pour les Français cette fois-ci, parce que les Français, tout le monde était solidaire des agriculteurs. Comme avec les gilets jaunes au départ. Sauf la grande différence, c'est que les agriculteurs n'ont pas besoin d'être pris en main par telle et telle couleur politique. Ils savent ce qu'ils veulent. C'était ça la particularité. Les gilets jaunes, c'était un rejet ambiant total. Mais ça, sans...
Toi, tu as été gilet jaune en plus.
Oui, j'étais gilet jaune. Et c'était navrant parce que au départ, c'était vraiment une révolte populaire et patriote. Qui a été travaillé par les infiltrations. Il y a eu des infiltrations, des agents provocateurs au sein du mouvement. Tout a été travaillé dans ce sens-là.
Ils ont foutu le bordel pour dire, regardez aux Français, regardez, c'est eux qui aujourd'hui font que les vitrines des magasins sont cassées, les gilets jaunes. Alors qu'en rien, les gilets jaunes ont été...
Oui, on a complètement oublié que les gilets jaunes, initial, c'était les ronds-points. Et en fait, on a focalisé sur les Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, on a laissé au bout de 2 semaines défiler qui ? Bah, les banlieues qui étaient là pour se servir et non pas servir le peuple. Donc, tout ça a été fait pour discréditer justement le peuple.
Je crois que sur les banlieues, il y a quand même des gens assez altruistes, pour le coup, ça faut le dire.
Oui, mais il y a de tout.
Et qui nous regardent d'ailleurs aussi.
Mais Mike, il y a de tout. Hein. J'ai des amis dans les banlieues. J'étais élue d'une banlieue parisienne, à Nières. Donc, je connais ces sujets, mais on ne parle pas de cet aspect-là. Tout le monde est... Il y a des malfrats au sein du pouvoir, mais comme il y a des malfrats...
Il a parlé des francs-macs. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, les Français rejettent beaucoup de choses en disant « c'est conspirationniste, parce que les symboles... » Mais le pouvoir utilise ces symboles. Aujourd'hui, ces symboles sont, mais à outrance, utilisés par le pouvoir. Et donc, il faut s'y attacher, il faut regarder ce que signifient ces symboles. Quand on voit, on a cité l'histoire des bus rouges pour le vote de l'avortement, c'est pas fait par hasard, c'est voulu, et c'est pas fait parce que quelqu'un s'est trompé au moment de réservation. Faut quand même s'y attacher et comprendre que donc la franc-maçonnerie, je pense que là-dessus, les symboliques, c'est quelque chose d'important dans la franc-maçonnerie, et donc ça s'exprime à travers certains.
Et notre ami Stéphane, il trépigne, il a envie de dire des choses.
Oui, allez-y.
Par rapport à la communication, par rapport à la vitrine du Salon de l'Agriculture. Et je pense que Luc et moi, on a découvert des choses. On était peut-être un peu naïfs, certainement.
Nous, on est
dans nos campagnes, donc on. Alors, j'ai eu la chance quand même de côtoyer pas mal de personnes qui m'ont aidé. C'est autant la presse, mais d'autres personnes aussi. Et en fait, pas cette année, mais le 25 février l'année dernière, on était au Salon d'Agriculture. En fait, on ne rencontre pas M. Macron comme ça. Il faut l'organiser. Donc j'avais organisé par les services généraux, en fait, on a une rencontre avec. Et en fait, on un peu naïf comme on était, à un moment dans le salon, quand il a été voir la vache effigie, il y a eu un grand couloir, service d'ordre, mais un grand couloir. Sur presque 15 mètres, et tout le monde au garde à vous sur les côtés, et puis, broum, il est venu directement nous rencontrer. Alors, formidable, c'était le but. Tous les médias étaient là. Pendant qu'on était en train de discuter, j'avais des SMS de mon épouse et mon fils qui étaient à la télé, on était sur CNews et BFM, en direct. On est resté 10 minutes discuter avec M. Macron. Tous les chaînes nous ont diffusé, le midi sur France 3, tout le monde. Tout le monde nous a vus, mais il n'y a jamais eu de son.
Ah oui ?
Il n'y a jamais eu de son.
C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que vous disiez.
Vous pouvez aller voir tous les replays, vous n'aurez pas notre son. Il n'y a qu'une chaîne qui n'était pas invitée, qui a filmé, qui a été éjectée par le service d'ordre.
Ah oui.
Et un reportage TikTok. Et Luc avait filmé. Tout. Et là, on se dit, ah là, on y est. Parce que l'info, je peux en parler autrement, mais on en viendra peut-être. Parce que dans tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu l'occasion d'aider une personne à écrire un livre. Et ce livre a été traduit en bulgare. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Bulgarie témoigner pour ce qui se passait en France. Et là-bas, ça a été diffusé à l'international, sans filtre. Et les retombées sont...
Mais on sent quand même que la France, par rapport à la Bulgarie, par rapport à d'autres pays... C'est quand même cadenassé, c'est politiquement correct. Parce que vous montrez comme ça une image, parce que j'imagine que lui, il voit qu'il y a des caméras, il le sait, il doit sourire et tout. Et vous,
si il comprend pas qu'on n'ait pas été indemnisé.
Et donc j'imagine que les gens, quand ils voient cette image, ils doivent se dire, oh là là, Madame Michu et M. Durand, ils doivent se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon notre président, quoi. Et qu'est-ce qu'il est courageux. J'imagine que c'est ça, en fait.
Oui,
non
ça, c'est ça.
Et voilà, parce
c'est
que... Et derrière, et qu'est-ce que vous vous disiez, du coup?
Bon, on a eu la chance de lui exprimer tout ce qui s'est passé sur chacun de nos... On était quatre.
Ouais.
Chacun exprimer ce qui se passait sur
nous. Lui a dû dire oui.
Ouais, voilà. Et il comprenait pas qu'on n'était pas indemnisé.
Voilà.
Mais comment se fait-il? Comment se fait-il?
Il avait le beau rôle, quoi. En gros, les médias lui donnent le beau rôle, en fait.
Voilà. C'est exactement ça.
C'est ça.
Ouais.
Et donc vous vous êtes dit, tiens, on s'est fait piéger.
Alors oui et non. Allez, on s'est peut-être fait piéger sur ce coup-là, mais en fait c'est encore pire parce qu'en fait maintenant on le sait. Donc on s'est pas fait piéger. C'est utile aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Aujourd'hui c'est
donc
utile.
On s'est pas fait piéger. On se construit aussi.
Mais sur le moment.
Maintenant le programme on le change aussi.
Mais sur le moment Macron il passe pour le bel âtre qui parle à des paysans et qui est sympathique et tout ce qu'on
veut. Oui, aux yeux de la population. Mais à l'époque ça a quand même mené à une enquête ministérielle. Qui a été faite en juillet et août dernier et qui a été distribuée en catimini par les chambres d'agriculture à peu près à 20% de la population agricole. Et il y a eu 2000 réponses. Donc,
écoutez, vous savez quoi? On va passer tout de suite au troisième volet. C'est sur les pollutions électromagnétiques parce que ça, c'est important qu'on en parle tous ensemble. Mais avant ça, les petites annonces.
Chaque famille a une histoire. Et on vous la raconte sur GPTV.
Merci à tous d'être si nombreux. Déjà 3500 personnes en même temps. Merci à vous. Voilà, continuez à nous soutenir. C'est grâce à vous que nous vivons. Donc voilà, vous cliquez sur le lien. Et puis vous faites un petit don. Et puis vous avez droit à une petite surprise. Évidemment, on vous prépare aussi des reportages. Voilà, vous avez vu l'annonce. Il y aura des reportages inédits qui arrive. Donc là, on va parler vraiment de cette pollution des ondes électromagnétiques. Voilà, je montre le fascicule. Non, mais c'est pas la Banque de France et la dette. Oh là là. Pff. Vraiment, les jeunes aujourd'hui, on ne sait plus, on sait plus ce qu'ils valent. Mais bref, c'est pas grave. Donc, notre ami Stéphane et Luc vont en parler. Allez-y. Qu'est-ce que c'est ces ondes électromagnétiques en élevage?
Alors, ces ondes, on les perçoit en fait quand on devient électrosensible, comme je suis devenu. Ces ondes, en fait, on le mesure, même avec le voltmètre, tout simplement pour contrôler la batterie de notre voiture. En piquant dans le sol, simplement, il y a du courant. Et du courant, pour vous faire une idée, moi j'ai 1,4 V de courant continu. Pour imager, puisqu'on a dû tous passer dans les petites écoles quand même, les bêtes sont 10 fois plus sensibles que nous. Donc, à 0,5 volts, ça représente la pile carrée qu'on mettait sur la langue à l'école. Donc 0,5. Donc on est 3 fois plus. Donc en gros, les bêtes, les vaches, mettent la batterie de votre voiture à chaque fois qu'elles boivent et qu'elles mangent. Donc c'est comme si vous mettiez, vous, la pile carrée à chaque fois que vous prenez l'apéro avec vos amis, vous prenez une décharge.
Pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que dans votre champ, ou à côté de votre champ, on y met ce genre de choses.
Bah, le sol est conducteur, donc en fait, c'est une surface, mais pas que chez moi, chez tous les agriculteurs qui sont impactés. En fait, on a des zones impactées, il y a du courant dans le sol, et ce courant-là, à chaque fois que les bêtes mangent ou boivent, elles prennent des décharges électriques, ce qui les empêche de boire correctement, donc de produire du lait, ou entre autres, ou de grossir avec la viande. Alors, à la suite de ça, elles font soit des infarctus, des AVC, ou des hémorragies. Moi, j'ai créé un site avec une copine qui s'appelle La Faille est dans le Pré. J'ai une vidéo dessus qui est très, très dure à voir. Pour les âmes sensibles, surtout pas aller la voir. En fait, j'ai un veau qui meurt en 37 minutes. Il explose. Tous les vaisseaux explosent. Et ces ondes et ces champs magnétiques détruisent les tissus. En fait, à l'intérieur de votre corps, les tissus se déchirent comme mieux que de la feuille de cigarette. C'est, aux autopsies, c'est catastrophique.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que ça vient aussi des éoliennes.
Oui.
Ça vient de quoi encore de...
Éoliennes, antennes, panneaux solaires.
Antennes, c'est-à-dire antennes téléphone.
Téléphone, oui.
Voilà, et Internet.
Internet.
Panneaux solaires. C'est-à-dire que tout ce que l'on nous vend comme étant une forme d'écologie, en réalité, va contre la nature.
Je ne suis pas sûr que le téléphone a été vendu comme étant écologique.
Oui, peut-être pas le téléphone. Hein.
Non, mais l'électricité non plus pour votre lumière, c'est pas... C'est forme écologique ou pas, je dirais que ce qui est écologique, c'est de ne pas en consommer. Mais à part ça, non, mais en fait, aujourd'hui, le seul point commun que toutes ces choses-là ont, c'est les transformateurs et c'est le réseau RTE. Donc, de toute façon, c'est eux qui commandent...
Qu'est-ce que c'est le réseau RTE?
Réseau...
De transport
d'électricité.
Voilà, parce que vous connaissez bien le dossier, mais les gens qui
n'ont pas... C'est EDF,
voilà.
On va dire.
Donc voilà, c'est EDF. Voilà. Donc EDF... Mais toutes ces choses...
C'est par leur circuit que tout fonctionne. Alors moi, j'étais à l'étranger, j'ai eu des témoignages aussi. Et en fait, en France, on a le souci. Nos bêtes, elles meurent surtout le week-end, à partir du vendredi après-midi. Pourquoi? Parce qu'il y a une surconsommation des téléphones, streaming pour revoir les films, pour préparer les repas, pour les week-ends entre amis. Et il y a une sous-consommation électrique. Donc on suppose que le courant, donc il est toujours produit en même quantité, donc il est déchargé. Tout le courant qui n'est pas consommé est redéchargé. Et en France, ça repasse par le sol et pour repartir à la centrale. Dans d'autres pays, ça repasse par le fil neutre, donc ça ne passe pas par le sous-sol.
C'est-à-dire que dans d'autres pays, il n'y a pas de problème.
Il y a des pays qui n'ont pas d'impact. Mais il y a d'autres pays, il y a beaucoup de pays...
Pourquoi ils le font par le sol? Parce que ça coûte moins cher?
Oui.
Voilà, en France, on fait des trucs moins chers.
Et à la base ces installations-là, elles ont combien? 60 ans, 70 ans, ces installations électriques. Et on a créé, vous avez le compteur Linky, donc vous avez le CPL qui a été mis dans les lignes haute tension. C'est de l'information, c'est du numérique qui est dedans. Ça, c'est pas la même chose. Le courant pour allumer la lumière, c'est l'alternative. Le courant pour vous donner des données numériques, c'est du continu. C'est pas les mêmes courants, donc on n'a pas les mêmes fréquences. Et c'est toutes ces choses-là qui n'étaient pas, avant qu'on a alerté, dès le départ, en fait, le courant continu n'a jamais été étudié. Ça n'a jamais été étudié. C'est là la problématique des agriculteurs. Et aujourd'hui, on a voulu nous mettre nos installations en défaut, dire que c'est votre installation électrique qui est en défaut, sauf que c'est de l'alternatif. Donc on n'est pas sur le continu. Et aujourd'hui, moi, c'est dans les champs que le problème se...
Et justement, quelles sont les conséquences chez vous ?
Moi, les bêtes, elles meurent en moins de 2 heures.
Vous m'avez dit qu'il y avait... Il n'y avait plus aucune bête, même pas des insectes.
Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus d'escargots, il y a des...
C'est-à-dire que vous êtes un champ dans la nature, il n'y a aucune vie, zéro vie.
On ne va pas aller jusqu'à plus de vie, mais les animaux essentiels, en fait, sur un tas de maïs, normalement, il y a des étourneaux. Mais moi, il y a une autre chose qu'il faut que je précise, qui est importante, c'est que je suis sans pesticides et sans engrais chimiques. Je ne paye pas l'appellation bio parce que je ne veux pas payer... Il faut dire que je fais du bon boulot, c'est plus une autre chose. Mais il y a ruisseau, il n'y a pas de grenouilles, il n'y a pas de libellules, il n'y a pas. Mais même, j'ai vu de nuit des oies qui sont arrivées, on les entendait arriver, qui sont arrivées sur la zone, elles ont fait demi-tour.
Et cher Luc, est-ce que c'est pareil chez vous ?
Alors moi, c'est la même chose. C'est déterminé, comme je l'ai dit en début d'émission, par un poste sur Senedis de 63 000 volts qui se situe à 150 mètres de mon exploitation. Donc j'ai plus d'animaux, ça se traduisait par... Il n'y avait pas de consommation d'eau. Plus de la moitié moins de ce qu'une bête devrait boire. Et derrière, un temps d'engraissement, parce que je faisais de la bête de viande, un temps d'engraissement qui était multiplié. Des fois, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois... de plus de présence que ce que ça aurait dû. C'était très variable, suivant les puissances d'électricité, je suppose, consommées et transformées sur ce poste source et redistribuées dans les maisons. Et c'est particulièrement à l'hiver où ça marche moins bien, je suppose, là aussi, pour chauffer les maisons. Donc il y a davantage d'électricité qui arrive et à être transformée, à être distribuée. Donc derrière, beaucoup plus d'électricité redistribuée par les prises de terre du poste sur Senedis. Moi, mes prises de terre de mon bâtiment font antenne et donc absorbent l'électricité rejetée par Enedis. Et derrière, ça remonte par le sol, par le sous-sol, par les airs et par les lieux, les endroits, par les abreuvoirs. Et donc les bêtes ne boivent plus parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du courant dans l'eau. Donc forcément, quand il y a du courant dans l'eau, ça fait pas bon ménage.
Décèdent aussi ? Est-ce que c'est comme j'ai lu qu'il n'y a plus d'animaux ?
J'ai eu un petit peu de décès dessus, mais c'est surtout les prises de poids qui n'étaient pas là. Si vous voulez, au lieu de faire 2 kg, 200, 300 à peu près de prises de poids par jour, par rapport à ce que je leur donnais, mes bêtes prenaient dans les pires moments que 400-500 grammes quoi, par jour. Et j'ai remarqué qu'au bout de 22, une quinzaine de jours, en consommant moins de 22 litres d'eau par jour, les bêtes commencent à mourir.
Commencent à mourir,
ouais.
C'est ça.
Et à partir du 10 mai jusqu'à fin octobre, début novembre à peu près, les consommations d'eau étaient correctes, très correctes, suivant les années. Et je suppose que là, c'est pareil. Si le temps est à l'humidité, donc il faut un petit peu plus de courant. Et derrière, il y en a davantage qui est remis à la terre. Mais par contre, la période la plus catastrophique, c'était tout le temps la même chose, à partir de début novembre jusqu'à mi-mai à chaque fois à peu près.
Et vous deux, vous n'êtes pas des cas isolés ?
C'est loin de là.
Ouais. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'exploitations qui ont ces soucis ?
Alors, on nous a dit au début, quand j'ai commencé, parce que Luc, il m'a connu après que j'avais démarré, en fait, j'ai commencé à être médiatisé à la télé, en même temps que Didier Potiron, que j'ai interviewé. En fait, on est tombés les mêmes semaines, et là, ça a explosé, on s'est rendu compte qu'on était nombreux. Mais on nous disait au niveau du ministère qu'on était des cas résiduels. Et quand on a rencontré justement le président Macron le 25 décembre 2023, Il a été décidé de faire une enquête ministérielle qui a été faite justement l'année dernière, donc entre juillet et août. Cette enquête ministérielle, elle a été faite déjà dans une mauvaise saison parce que c'était les moissons, c'était pas la période pour certains de répondre et de prendre du temps à répondre à un gros questionnaire. Et en fait, ça a été distribué à 20% des agriculteurs. Sauf que ce questionnaire-là n'a pas été transmis à tout le monde. Seules les personnes qui étaient à moins de 2 km d'une installation dite électrique, transfo et ligne à haute tension, antenne ou éolienne, pouvaient y répondre. Et sur ces 20 000 personnes qui ont à peu près reçu ce questionnaire, il y a eu 2 000 réponses. Mais si on fait un calcul un petit peu savant, en prenant en compte, on peut estimer pratiquement à 25 000 agriculteurs impactés.
25 000 exploitations, quoi.
Oui.
Enfin, 25 000 exploitations
et
impactées par les pollutions des ondes électromagnétiques.
Oui.
C'est énorme.
C'est pour ceux qui savent. Ça, c'est pour ceux qui savent.
C'est pour ceux qui savent.
Voilà. Pour ceux qui savent, parce qu'il y en a plein qui sont justement dans le système soutenu par les techniciens et tout ça. Donne un peu plus d'aliments, tu auras plus. Et en fait, on se rend compte que c'est une machine, une vache, c'est une machine. En fait, on lui donne à manger. Avec tel volume de nourriture, elle doit produire tel volume. Sauf que le monde agricole, c'est souvent des successions de parents et tout ça. On est habitué à les transmissions. C'est comme ça que ça se fait. On minimise le prix de la ferme ou c'est les enfants qui ont pris. On vend pas la ferme. On se maintient. Donc une vache qui devrait faire par exemple 25 litres de lait, elle en fait que 20. Mais c'est pas grave puisqu'on n'a pas payé la ferme. Donc on s'en sort. On végète. Mais donc du coup c'est beaucoup aussi l'explication des revendications qui sont faites. En fait, le monde agricole, beaucoup disent on gagne pas notre vie. Mais pas forcément parce que le prix n'est pas adéquat, mais parce qu'il y a un dysfonctionnement dans l'exploitation, et on s'en est pas rendu compte. Je pense que dans les années à venir, puisque j'ai le cas chez moi, j'ai voulu vendre ma ferme, je ne peux pas la vendre, c'est la SAFER qui doit la vendre.
Qu'est-ce que c'est la SAFER ?
C'est c'est l'organisme...
le transfert des terres.
Ce transfert des terres, on est obligé de passer par eux, même que vous achetez un terrain constructif, vous êtes obligé de passer par la SAFER,
c'est l'organisme... C'est la France, il faut toujours passer par l'administration.
Je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Enfin,
peu importe. Mais cet organisme-là, ne peut pas vendre nos terres parce qu'ils prennent la responsabilité, une responsabilité décennale. C'est comme si vous vendez votre voiture et que vous avez un moteur cassé. Ils sont obligés de le dire. Ils en sont responsables pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, nos fermes ne sont plus vendables et personne ne va les acheter et eux ne veulent pas prendre la responsabilité.
Donc il y a au moins 25 000 fermes qui ne sont pas vendables.
Oui.
C'est hallucinant.
Oui.
C'est quand même,
on est deux dans la position à avoir. Moi, la mienne avait été plus ou moins vendue, mais maintenant, la SAFER ne veut plus revendre. Et j'ai Laurent Mèche qui est dans le Puy-de-Dôme. Et lui, la SAFER, elle est invendable aussi. Okay. La SAFER a refusé de chiffrer.
Donc, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Si vous le dites, je vous crois.
Voilà, j'ai une anti-sèche. C'est pour ça. C'est public, j'imagine.
Oh, c'est comme tout.
Voilà, c'est un truc qui est
obligatoire, mais
vraiment la France, l'administration.
Si on peut servir les copains d'abord. Normalement, c'était pour que qu'il n'y ait pas une distribution des terres, anarchique, quoi. Que les terres qui étaient groupées restent groupées. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. En fait, on sert les copains et puis autres après, quoi.
Quelles sont aussi les conséquences pour votre santé?
Moi, j'ai fait un infarctus le jour de mes 53 ans, ça fait 3 ans. J'avais fait des alertes avant. Dès que j'ai démarré sur cette exploitation, parce que c'est un rêve de gosse, j'étais dans le bâtiment, j'ai fait des gros chantiers sur Paris, j'ai fait un beau parcours professionnel. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai eu une opportunité. J'étais muté, j'avais un gros poste et puis j'ai refusé, j'ai préféré rentrer à la maison pour vivre mon rêve de gosse, d'être paysan justement. Parce que comme je fais, comme beaucoup les rêves, en fait, c'est pas un métier, hein, c'est une passion. Donc on voit les choses complètement différemment. Quand les gens qui ont leur chien, leur chat, rien qu'au regard, ils savent qu'il va mal. Il n'y a pas de signe, mais le regard, on sait que la bête va mal. Et c'est là où moi j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le troupeau. Et en plus, comme j'étais responsable d'un centre de profit, donc les ratios, dès le départ, au bout de 10 jours que j'avais pris mon exploitation, je me suis dit, mais bordel, je donne pour 100 € à manger et j'ai que 80 € de lait. quoi ? C'est quoi le ratio ? Alors, un peu naïf comme je l'étais, je me suis dit, bon, bah, c'est pour ça que les packs existent. C'est pour compenser la perte. Mais oui, mais même avec les packs, ben oui, mais je ne suis pas payé, mon électricité n'est pas payée, et mon gasoil non plus. Donc, mais dès le démarrage, en fait, je me suis rendu compte que c'était planté, quoi. Mais par contre, se débattre avec
c'était
ça...
C'était planté financièrement et c'était planté au niveau de la santé avec cet arrêt cardiaque.
Et dès le cardiaque. Non, non, mais là, c'est le problème cardiaque est arrivé 5 ans après. Mais dès le démarrage, en fait, ça joue sur la température corporelle. Donc moi, j'avais les pieds gelés et les mains gelées. J'étais toujours gelé, même en été. Et en fait, même sur les bêtes, ça a été contrôlé par les vétérinaires, les services vétérinaires, et en fait, on se retrouve avec des bêtes qui ont 2 degrés corporels de moins parce qu'elles sont en souffrance. Et quand elles sont en chaleur, quoi, et ben elles descendent encore de 1 degré. Donc, à la place d'être à 38,4 comme elles devraient être, elles étaient à 36,3, 36,6. Et après, quand elles étaient en chaleur, elles tombaient à 35,4. Normalement, une bête qui est en dessous de 36 ne se relève pas. Et chez nous, ils tenaient encore. C'était des robots. Hein, mais ça joue sur la vue. Les bêtes devenaient perdaient un œil, enfin même nous. Moi, j'ai perdu aussi la vue là-bas. Enfin, j'étais obligé de voilà. Même ça joue sur la pigmentation de la peau. Je disais tout à l'heure.
Racontez-nous.
Moi, je suis quelqu'un qui est relativement bronzé de nature. Enfin, dès qu'il y a du soleil, et pendant que j'ai été sur l'exploitation, ben, moi, ça fait 3 ans que je vais pratiquement plus. Et ben, je rebronze, mais autrement, j'étais blanc. Était comme hiver. Et on a voulu alors. Toutes ces choses-là, si on va chercher un peu partout, je fais partie aussi d'une étude qui est faite par l'ANSES pour les électrosensibles. Parce que maintenant, quand je suis situé, alors ce que vous allez me dire, bah oui, là je suis dans un studio où il y a des caméras, où il y a peut-être du Wi-Fi et tout ça, il n'y a aucun ressenti. C'est ce qui est assez bizarre. Et en fait, on se rend compte que là, on a l'impression d'être dans une cage de Faraday. Parce que là, on n'a pas l'air d'avoir de nuisance. Et c'est assez surprenant à exposer comme on est ici aujourd'hui. Alors que quand on marche à pied, par moments, il y a des éruptions cutanées, les boutons qui sortent, comme la varicelle, et puis on se met à gratter, et ça saigne tout de suite. C'est immédiat. Et les douleurs articulaires tout de suite. Quand on est, soit qu'on arrive à un transfo, à une éolienne ou une antenne, on ne les voit pas. Hein. Mais même en venant, là, pour vous dire, j'ai qu'une vieille voiture, une Mégane, pour ne pas la nommer, presque à toutes les antennes sur la 4 voies, stop, casse moteur.
Ah ouais, ça va jusqu'à là.
Ah oui, oui. Moi, sur mon exploitation, il y a des voitures qui s'arrêtent, stop, casse moteur. Elles font 1 km, après, c'est bon, elles sont reparties.
Et comment vous sentez est-ce que vous êtes en forme?
Non, je ne peux plus travailler. Là. Je vais être mis en invalidité. Là. Je ne peux plus travailler.
Donc ça a brisé votre vie?
Ah oui, oui, oui. Pas que la mienne. Parce que ça brise, c'est mon choix, ma ferme. Donc c'est une chose, mais ça brise la famille. Ça brise la famille. Ça brise les couples. Ça brise la famille, les enfants. Des choses quand même qui vont jusqu'au. Enfin, je ne sais pas si c'est à l'impensable. On a été au sommet de l'élevage à côté de Clermont-Ferrand. On était 4 agriculteurs avant qu'on rencontre Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Enfin, il a le titre toujours. On était 4 à pleurer. Il y avait Luc, il y avait moi, il y avait Laurent Mèche, il y avait Frédéric. On était à pleurer. On pleurait. On avait les larmes. Parce que nos couples sont en l'air, parce que nos familles sont en l'air, et parce qu'on a tout perdu.
Est-ce que votre espérance de vie aussi est raccourcie ?
Mais certainement, oui. Mais quand Luc dit, c'est pareil, indirectement, depuis que je suis médiatisé, eh ben, on a des coups de téléphone de partout, on est obligé de faire l'assistante sociale, indirectement, hein, c'est ça. Là, Luc, quand ses bêtes sont parties, personne ne l'a accompagné. Je lui ai dit, le jour où, quand ils sont partis, je l'avais tout le temps au téléphone, il est venu 3 jours à la maison, parce que tout le monde, il se serait foutu en l'air. C'est ça la réalité sur le terrain. Et heureusement qu'il a été là, et heureusement
c'est que... Ça l'aurait été, cher Luc.
Ouais, oui, oui, pouvez... et je ne suis pas le seul dans le même cas.
Au niveau de la santé, tiens, est-ce que au pour niveau vous, de la santé, ça va ou...
Je ne suis pas extrêmement hypersensible, c'est surtout des insomnies que j'ai. Je ressens de l'électricité dans la maison où je vis, puisqu'elle est sur le site d'exploitation. Mais bon, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce que je voudrais rajouter, moi, c'est que je vais faire un petit peu de pub, mais j'ai créé une page Facebook et j'appelle tous les agriculteurs et tous les particuliers qui sont hypersensibles et tous les agriculteurs qui ont des problèmes d'ondes électromagnétiques à remplir cette... J'ai créé une enquête, c'est la page Facebook s'appelle Enquête Ondes électromagnétiques agricoles et particuliers. Et donc, plus on va être nombreux à remplir cette page, plus on va
enquête
pouvoir...
Enquête Ondes électromagnétiques
agricoles
agricole et particuliers.
Et plus on va être nombreux à remplir ces questionnaires, et ben plus on va avoir de force pour faire quelque chose une fois que les résultats seront sortis. Alors, quand est-ce que sortira cette enquête, je ne sais pas. On va mettre au moins quelques mois, en espérant qu'il y ait un maximum de gens à y répondre. Voilà la parenthèse et pour ça.
Cher Luc, votre vie de famille, ça a brisé celle de notre ami Stéphane. Pour vous, est-ce que c'est pareil? Vous connaissez cette même souffrance?
Oui. Comment mes parents en ont marre. J'y vais chez eux, mais mes parents en ont marre d'entendre tout le temps la même chose. Mon frère, c'est pareil. On vit et on pense qu'à ça en permanence, quoi. Et puis c'est on a trouvé quelque chose pour, par exemple, là, aujourd'hui, les journalistes, on va pouvoir témoigner et tout, et puis faire en sorte que ça se divulgue. On est heureux. Derrière, il se passe pas grand-chose. Des fois, c'est l'inverse, ça recommence. Et puis, psychologiquement, mentalement et financièrement, c'est dramatique. C'est dramatique et on est énormément à être pris... Pareil.
Mais justement, cher Luc et cher Stéphane, comment vous tenez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? Parce que vous êtes courageux, vous militez, vous sacrifiez.
Eh ben, c'est ce qui fait tenir, c'est l'espoir. Pour moi, l'espoir d'y arriver. Je suis en procédure judiciaire depuis 5 ans et demi contre Enedis.
Contre EDF.
EDF, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien. Là, je vois qu'il y a des avancées au niveau médiatique et qu'on en parle quand même de plus en plus. J'espère que ça va continuer comme ça et puis que le scandale va exploser partout parce que c'est un scandale sanitaire. Il y a les animaux, mais il y a aussi les humains. Il y a des clusters de cancers pédiatriques un peu partout en France à cause de ça. Le plus connu, c'est Sainte-Pazanne.
Et du coup, comment vous vivez? Comment vous arrivez à vivre dans votre quotidien? Parce que financièrement, déjà, ouais.
Financièrement, je vis avec... avec rien. Avec rien. J'arrive à me débrouiller, j'arrive tout le temps à jongler parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive comme par magie. Je ne sais pas pourquoi, je suis au fond du trou. Il y a quelque chose qui arrive par magie. Et puis, j'arrive à remonter la pente jusqu'au prochain ravin pour remonter tout le temps à chaque fois. Mais arrivé à un moment, ça devient plus possible. J'espère simplement que ma procédure va aboutir et gagner ma procédure et des indemnités. Ou alors que l'État vienne nous indemniser directement, quoi. Parce que la pression va faire que d'augmenter de toute façon. Hein. On ne va pas les lâcher maintenant.
Il ne faut pas les lâcher.
Non.
Cher Stéphane, voilà, qu'est-ce qui vous fait tenir?
Moi, aujourd'hui, c'est ma famille qui me fait tenir. Parce qu'autrement, il n'y a plus... Moi, j'attends plus grand-chose, en fait. J'ai une dette, les chiffres paraissent gros peut-être, mais j'ai investi 500 000 euros, j'ai emprunté 500 000 euros il y a 8 ans pour m'installer. C'est pour une petite exploitation, hein, ça chiffre très rapidement, une vache ça vaut presque 2000 euros, hein, faut le voir comme ça. Et aujourd'hui je n'ai pratiquement rien remboursé de mes emprunts, donc je dois 500 000 euros à la banque sans les AGO et tout ça. Je n'ai aucun moyen de rembourser ces sommes-là.
Et vous ne pouvez pas transmettre à vos enfants, par exemple?
Non. On en est là et on ne peut pas transmettre, on peut pas... Mais même, sans transmettre, on n'a aucune vision, même en vendant, de toute façon, je vendrai à perte. Comment faire pour rembourser la perte? De toute façon, c'est Non, je suis piégé. Le système a fait que on m'a vendu un outil pour produire et je peux pas produire. Donc j'ai l'outil mais je peux pas produire. Mais je suis piégé et je pense que je suis pas le seul. Et on a surtout aucun soutien. Moi, Luc, bon, il a pris la relève parce que moi, au mois de septembre, j'avais dit stop, j'arrête le combat parce que justement, j'avais beaucoup de monde à me suivre et ça me pesait. Et à chaque coup de téléphone, vous entendez la personne qui pleure. Là, j'ai eu un coup de téléphone il y a une quinzaine de jours. C'est une dame qui pleure. Elle a perdu la moitié de son troupeau. Elle ne sait pas comment faire. Elle me dit Stéphane, je fais comment? Mais j'ai même pas voulu la rappeler. J'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous faites? On est le bureau des pleurs, ok, mais on fait quoi? On n'a pas les réponses, on n'a rien. Luc, donc il vient de reprendre la relève et je suis content pour ça parce que moi je ne pouvais plus. Mais on a fait du travail avant. On a travaillé avec un autre ministre qui s'appelait Julien de Normandie. Et là, on a été écoutés. On a eu des choses concrètes. On est au moins deux, moi et un autre éleveur. On a été convoqué à la préfecture. Et les préfectures nous ont demandé de chiffrer notre préjudice. Alors, ça, c'était pour une base pour une négociation d'indemnisation. Quand on est sortis de là, tous les deux, on s'est dit... on n'était pas dans les mêmes départements, mais quand on est sortis, on dit, bordel, on y est, quoi. On y arrive. Mais on a payé, pour ce qui me concerne, 1 400 € pour faire l'étude par le centre de gestion et la chambre d'agriculture. Et le préjudice, il est 2,3 millions. Quand on fait une autoroute, quand on fait une LGV, il y a des fermes de rasés. Ils sont expropriés, ils sont indemnisés. C'est ce qui nous arrive pour l'utilité publique, pour les antennes, pour l'électricité. Mais ça, on peut le comprendre. Mais on est victime et c'est encore à nous de payer. C'est ça qui n'est pas normal. C'est qu'aujourd'hui, moi, on me dit, bon, ton exploitation, on ne peut pas produire dessus. On te paye, puisque ça, on a besoin du téléphone pour les autres, on a besoin d'électricité. Mais ça se comprend. S'il y avait une autoroute à passer là, oui, on n'est pas à la recherche d'argent. Ce que j'ai même proposé au ministre de l'Agriculture, c'est d'effacer simplement nos dettes pour repartir sur une page blanche. Parce qu'aujourd'hui, comme on est endetté, on ne peut plus rien faire. Même les toitures sur l'exploitation sont en train de... Les ardoises sont en train de partir parce que je n'ai pas les moyens de refaire mes toitures. Donc on est en train de perdre du patrimoine en plus. La situation, c'est vraiment catastrophique. Et je reviens pour une autre anecdote par rapport à Julien de Normandie, parce que je pense que c'était un ministre qui a écrit un livre aussi. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Et je l'ai vu. Quand on voit... qu'il a été à l'étranger, que sa gamine est tombée malade et qu'il a été voir dans les pharmacies pour avoir les médicaments et qu'il ne les trouvait pas. Et il a demandé à sa femme de ménage comment faire pour trouver les médicaments. On lui a dit, va acheter un poulet dans le magasin et tu auras les libus antibiotiques dedans et ta gamine sera soignée. Et je crois que c'est au Brésil pour pas... C'est écrit dans son livre. Donc, quand on est arrivé, ministre de l'Agriculture, conscient de ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que, enfin, pour moi, je le connais pas personnellement, mais quand on arrive à écrire ces choses-là et à le dire à la télé, c'est qu'on est conscient qu'il y a un problème en France. Et si il n'a pas été nommé Premier ministre, c'est peut-être qu'il voulait pas rentrer dans les magouilles des autres non plus.
Merci à vous pour vos témoignages, cher Luc et cher Stéphane. Lara, quand tu entends ces témoignages, qu'est-ce que
tu penses ? J'ai pas de mots, hein, parce que c'est... J'avais des questions, et quelles sont vos solutions, comment vous voyez vous en sortir, vous avez tout expliqué, et c'est un désastre, quoi. Bon courage, et je sais pas, je suis atterrée d'entendre ça.
Parce que c'est ça la situation aujourd'hui en France. Et pas que pour nos paysans, c'est pour l'ensemble de nos... Par exemple, même les chefs d'entreprise avec leur PGE, leur ont filé le PGE, la plupart d'entre eux vont crever, c'est faux de dire. On a parlé ici. Les salariés, pareil. Les étudiants, qui font la manche pour bouffer. Enfin, c'est tout le pan de la société.
Mais ils vont rendre les terres françaises stériles. Pour les animaux, finalement.
Oui, parce que ça agit sur la biodiversité aussi. Hein. Moi, j'ai un champ, excuse-moi, j'ai un champ qui est juste au pied de ce fameux poste source, Enedis. Et cette année, je voyais bien, surtout pour les céréales, puisque les céréales sont semées en automne, donc elles passent tout l'hiver les pieds dans l'eau, pour ainsi dire. Et donc... Là, cette année, pour la première fois, ce champ-là, j'ai été obligé de le défaire pour ressemer du maïs à la place, que je sèmerai au mois de mai, et que lui, il marchera, puisque les terrains s'assèchent dans ces moments-là. Et Depuis 3-4 ans, je voyais bien que les rendements dans cette parcelle-là diminuaient. Et quand je vois l'état de la terre, comment qu'elle est, je vois bien qu'elle est morte. La vie microbienne du sol est morte et donc il n'y a rien qui pousse dessus. Ça, on a l'impression que c'est un orage qui est passé, la terre est complètement battue, elle est asphyxiée, ça ne respire plus du tout. Donc ça agit sur l'humain, sur l'animal, sur la biodiversité, sur tout. C'est dramatique.
Qu'est-ce que tu en penses, Richard, toi qui as été le premier à parler de ce sujet?
Je pense trois choses. La première chose, c'est que d'abord, il y a un véritable scandale, parce qu'il y a une mafia derrière, il faut bien le dire. Il y a une mafia derrière qui est orchestrée par le gouvernement avec des relais, qui sont des relais locaux, qui dénaturent complètement les études et les chiffres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette mafia se traduit par une forme d'intimidation. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir les maires concernant les éoliennes. Et ça, j'ai eu cette information par une femme que mon voisin, M. Auffray, connaît. Les promoteurs d'éoliennes, qui sont assis sur des hamacs avec des taux de rentabilité qui sont énormes, on parle de 45% par an, voire plus, eh bien, ce qui se passe derrière tout cela, c'est très simple. C'est qu'ils vont voir les maires dans les différentes mairies de France en leur proposant 20 000 euros pour le début d'une étude pour une éolienne. Quand ils en mettent 6, comme dans les villages à côté de chez Valérie, que vous connaissez bien, 6 éoliennes, ça fait 120 000 euros. Où va l'argent? Où va cet argent-là? À ton avis, Mike? C'est facile de le déduire. Donc ça, c'est le deuxième point. Une mafia, un mode opératoire et une orchestration. L'orchestration, elle est voulue, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que derrière les études qui sont menées, il faut savoir qu'il y a 400 000 agriculteurs aujourd'hui en France. 400 000. 400 000, en tout cas, c'est le chiffre qui est donné. Et c'est vrai qu'il y a un remembrement qui fait qu'aujourd'hui, progressivement, il y en a de moins en moins. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un tiers, par exemple, dans les 10 prochaines années en moins. Donc c'est absolument considérable. Ce remembrement, il est voulu d'un point de vue politique. On essaye de chasser les gens tout simplement pour récupérer les terres. On sait, comme en Ukraine, que les terres, c'est du pain béni, en fait. C'est le sol, c'est la propriété, c'est ce qu'on veut. Et aujourd'hui, par exemple, un autre exemple en la matière, en Sologne, les terres de Sologne, qui sont des terres boiseuses, giboiseuses, il paraît qu'on dit, giboiseuses. Ces terres-là, aujourd'hui, sont restituées et sont rétribuées et sont données, il faut le savoir, à qui? Aux banques et aux assurances. Pourquoi aux banques et aux assurances? Parce que les banques et les assurances possèdent aujourd'hui la dette du pays, qui est de 3 000 milliards d'euros. Et donc, ils sont en quelque sorte actionnaires de la dette publique. Et aujourd'hui, pour les remercier en quelque sorte, on leur alloue des terres. Comme en Ukraine du reste, où l'Ukraine c'était le grenier à blé de l'ex-Union soviétique qui a été démembré. En Ukraine, on le voit de façon éhontée, la façon dont les Américains aujourd'hui préemptent ces terres ukrainiennes à près de 40%, plus de 40%, à travers les BlackRock et les grands groupes américains, préemptent ces terres-là en échange de la dette induite sur la future reconstruction du pays après la guerre. Donc on le voit, il y a une guerre des terres aujourd'hui qui est absolument énorme. Pour chasser ces pauvres paysans de leurs propres terres, on leur fout des éoliennes partout à rythme récurrent, qu'on implante comme ça et qui fourmillent de partout. On tue leurs bestioles, on les incite soit à se suicider, soit à aller vers les villes trouver du boulot dans une forme d'ubérisation. Et qui reprend les terres? Eh bien, effectivement, ce sont les assurances, ce sont les banques et ce sont les institutions qui sont dépendantes directement ou indirectement du gouvernement.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Lara.
Moi, je voulais compléter par rapport au BlackRock en Ukraine. Il y a quand même une information, c'est encore moins de 6 mois. BlackRock s'est manifesté auprès de l'administration de Zelensky, lui disant c'est pas normal que les terres qui nous appartiennent, le fameux Tchernozem, je ne sais pas si c'est... en tout cas, c'est une terre tellement noire qu'elle est très fertile, elle est très recherchée. Et ces terres-là sont occupées par des cimetières. Un cimetière de soldats. Donc BlackRock se manifestait en disant c'est scandaleux, ça nous appartient et vous polluez nos terres. Donc voilà le cynisme de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont aux manettes en fait. Et je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Où va l'argent? Mais d'où il vient déjà? Déjà c'est 20 000 euros, il vient d'où? C'est notre argent en fait, en réalité. Mmh. Donc c'est ça qui est monstrueux, où il va, mais d'où il vient.
Mais les gens ne se rendent pas compte de notre argent. Est-ce que les gens savent notre argent?
Toute cette mafia autour de l'écologie industrielle.
Moi j'appelle ça l'escrologie. Oui, totalement. C'est une véritable escrologie.
Et ça, c'est monstrueux.
Allez-y.
Si je peux rajouter quelque chose, j'y repense parce que je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. Il y a 3-4 ans... j'avais entendu parler de ça et puis j'y avais peu repensé. L'autre jour, j'ai vu une émission, une vidéo. C'est l'électricité par faisceau qui va débarquer partout sur le territoire, sur tous les territoires. Et donc, dans l'émission, il y avait celui qui vendait le produit qui était là. Et la journaliste lui pose la question, mais par rapport au problème d'ondes électromagnétiques, on entend de plus en plus parler de ça. Il n'y a pas de risque. Alors, la personne qui vendait le produit lui dit comme ça, non, il n'y a pas de risque, il faut simplement que les gens ne se mettent pas plus de 2 ou 3 secondes devant le faisceau, sinon ils risquent d'être brûlés.
Alors, 2 ou 3 secondes, c'est quand même pas beaucoup. Hein.
Non, mais quand on entend ça, il n'y a pas de risque, mais il ne faut pas que les gens restent plus de 2 ou 3 secondes. Et ça va débarquer bientôt en France s'il n'y a pas déjà des essais. Hein.
C'est quoi exactement ce dont parle notre ami Luc?
L'électricité par faisceau, c'est comme,
les téléphones, 5G, les téléphones vont charger tout seul, tout ça va se charger. Ouais.
Mais donc ça arrive très vite, ça.
Ça va arriver très vite. Mm. Mais en fait, quand on a commencé à parler de toutes ces choses-là, les électrosensibles, les paysans qui avaient leurs problèmes, on disait qu'il n'y a rien qui existe. Mais c'est ce que je disais avant l'émission, dans les écoles primaires, il n'y a pas de problème. Sauf que là, maintenant, dans les écoles primaires, il n'y a plus le droit à la Wi-Fi. Mais il n'y a pas de problème. Mais on arrête la Wi-Fi quand même. Pourquoi il y a autant de cancers, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la construction, même le bâtiment, moi j'étais du bâtiment, quand on voit comment on modifie les règles de construction, mais il n'y a pas de problème. On modifie les règles, les règles de coût.
Principe de précaution, on vous dira.
Oui, enfin, s'il n'y a rien, il y a pourquoi on fait. Mais et toutes ces choses-là, il y a un non-sens dans tout ce qui est voilà. Et l'autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas ce qu'on fait pour l'avenir, mais il y a une autre chose que je voulais dire aussi qui moi me m'insupporte et ça va pas plaire à certaines personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, en plus dans le monde agricole, on a affaire à beaucoup de charlatans. Ce monde-là, ça s'appelle les géobiologues. Et en fait, ils se nourrissent de la misère du monde.
Les géobiologues, qu'est-ce que c'est?
C'est quelqu'un qui vient corriger les nuisances. Alors, même à distance, hein, c'est un peu ce qu'on veut. C'est comme des radiesthésistes, c'est un peu... Mais en fait, y a ces métiers-là se sont développés à une vitesse phénoménale. Il y a maintenant énormément de géobiologues partout en France maintenant. Ils prennent quand même presque 900 euros à chaque prestation qu'ils viennent. Ils peuvent découvrir les nuisances, mais les corriger, ils n'y arrivent jamais. Aujourd'hui, ils n'y arrivent jamais. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient de la croyance. Alors, vous voyez, la magie noire, tout ce qu'on veut, tout vient sur le... En fait, les gens comme nous, on est tellement mal, on attend tellement des réponses et on prie tellement pour avoir des réponses qui vont nous sauver, on est prêt à donner de... Moi, je n'ai pas fait, hein, mais on est prêt à donner de l'argent. Il y a des...
Combien ça coûte, géobiologue?
800 euros ou 900 euros par prestation. Oh, mais il y a des exploitations qui ont donné jusqu'à 40, 50 000 euros.
Ah oui.
Et pour avoir zéro en résultat.
D'accord.
Et comme ces métiers-là ne sont pas soumis aux résultats, Luc en a fait travailler chez lui. Mais tout le monde a la réponse. On va rentrer à la maison, on va nous appeler, on va dire, ouais, mais attendez, moi, de chez moi,
dans les Pyrénées, là-bas, je vais vous régler à distance le problème de chez vous. On ne sait pas ce qui se passe chez moi, mais on va le régler quand même. C'est une escroquerie et c'est un métier qui n'est même pas reconnu. Et aujourd'hui, même les géobiologues travaillent pour les promoteurs éoliens, pour les antennes. Ils prennent jusqu'à 6 000 euros pour installer un parc éolien. Ils prennent 1 000 euros à peu près par éolienne. Ils travaillent avec les promoteurs éoliens. Les nuisances, et après, ils vont corriger chez les agriculteurs et paysans. Donc, en fait, ils ont un jackpot à chaque fois. C'est honteux.
On vit un pays gangréné par la mafia, il faut se dire, hein, Richard.
Et surtout, il y a un domaine dans lequel que j'aborde vraiment dans mon livre, le Grand Virage 2027, c'est effectivement tous les marchés publics et l'attribution des marchés publics. On le voit notamment à la campagne. Ça, c'est un truc absolument faramineux, puisque si vous ne faites pas partie des bons lobbies, si vous ne faites pas partie des bons réseaux, si vous n'avez pas les bons copains qui sont aux fonctions gouvernementales, municipales ou régionales, vous n'avez quasiment aucune chance de passer dans les marchés publics. Combien de personnes font des dossiers, mais ont les meilleurs dossiers, mais ne passent pas. Tout ça, c'est une véritable mafia qu'il faut dénoncer. C'est tout l'objet d'un changement total de paradigme qu'il faut vraiment intégrer aujourd'hui. C'est un changement de mentalité qu'il faut avoir. C'est une prise de conscience collective qu'il faut développer tous ensemble aujourd'hui pour arriver effectivement à ce grand changement. Alors, je suis désolé de dire que l'objectif, c'est 2027. Si on peut l'obtenir avant, on sera les premiers contents. Et je sais qu'il y a urgence, parce que quand j'entends des émissions comme celle-ci, effectivement, avec des témoignages comme ceux-là de personnes qui sont aujourd'hui vraiment aux confins quasiment du suicide, hein, parce qu'il faut appeler un chat, parce qu'elles ne peuvent plus vivre et parce qu'on leur met quasiment la corde autour du cou, ben c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas le choix que d'avancer et de se battre pour nous, pour eux, et aussi et avant tout pour nos enfants. Mais quel monde on réserve à nos enfants aujourd'hui ? Je veux dire, c'est vrai que c'est tellement triste de voir ça. Tiens, nos enfants aujourd'hui...
Alors, vas-y, continue.
Nos enfants vivent aujourd'hui dans la peur, dans la terreur, et se disent que même dans les campagnes, qui sont des lieux pourtant jusqu'à présent, où on était vraiment à l'abri de toute déconvenue, on était dans des lieux comme ça qui sont ultra protégés, eh bien même là-bas, on risque très très gros aujourd'hui, puisque si le bétail est touché, et c'est vraiment ce qu'on retient de cette émission, les hommes le sont aussi. Bah,
évidemment.
Les hommes le sont aussi.
C'est une commission parlementaire qui a eu...
C'est une enquête qui a été faite diligentée par l'OPEX. Alors ça, c'est les sénateurs et députés, c'était présidé par Villani, et ça a été fait par Philippe Bollot. Donc tous les sénateurs, tous les députés l'ont eu, ça.
Donc ils sont
ils ont tous la connaissance.
Ils sont au courant, ces gens.
Ils sont tous, ils peuvent pas. Et c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font respecter les règles et qui changent la législation. Donc ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant. Et aussi, je reviens sur le livre que j'avais commencé à parler.
Allez, montrez le livre à côté. Montrez le livre à la régie. Allez-y, continue. Oui.
J'ai accompagné Sue Berger à écrire Le Prix du Vent. En fait, pour pas qu'il y ait de choses faut que les choses soient claires, justement, pour pas qu'il y ait trop de coquilles non plus. Et en fait, ce livre-là, il a été écrit avec Sue. Il y a Jean-Louis Renouit, qui est ingénieur, qui a donné les données scientifiques. Ce livre-là a bien tourné en France.
Et à la version bulgare aussi.
Et on a été racheté par une association bulgare. On a été invité en Bulgarie pour présenter ce qui se passait en France. Donc on a été médiatisé à l'international et aujourd'hui, quand on y a été, en fait, Sue a eu des coups de téléphone. Là, on a fait des visions au Québec où tout le monde s'interroge. On va être invité dans d'autres pays parce qu'aujourd'hui, la France, ce qu'on a découvert il y a 8 ans, les premiers, en fait, Didier, Céline, moi et d'autres, en fait, c'est une première mondiale, on va dire. On est en avance sur tout ce qui se passe au monde.
Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ?
Sue Berger ?
Oui. Le Prix du Vent, où est-ce qu'on peut le trouver ?
Édition Rocher.
Donc, Édition Rocher, on tape chez l'éditeur.
Oui.
Et sur Amazon.
Oui. Le Prix du Vent, c'est à 19.
Voilà, donc Le Prix du Vent. Édition Rocher, c'est mieux quand même. Oui. Sur Édition Rocher.
Et en fait, c'est un livre qui est... C'est une BD, hein. C'est pour expliquer tout ce qui... le fonctionnement des courants
Et sans avoir fait maths sup, on comprend ce qui se passe. Et il y a les témoignages d'agriculteurs dedans et de paysans. Et ça reflète la réalité du terrain. Mais en plus, on savait quand elle était en train d'écrire le livre que c'était dramatique la situation. Mais on ne pensait pas qu'on était arrivé à ce stade aujourd'hui. Je peux confirmer, ouais, on a 25 000 agriculteurs impactés. Ça, on ne s'y attendait pas.
Merci à vous pour vos témoignages bouleversants. Une conclusion, chère Lara ?
Ce n'est pas une conclusion, déjà une question par rapport aux éoliennes. Ah. Déjà, et l'impact en mer, est-ce que nos écologistes ne s'inquiètent pas avec la biodiversité maritime ? Comment ça se passe, les éoliennes en mer ?
J'ai été confronté aux éoliennes en mer, et puis on a eu un gros problème parce qu'il y a des associations qui pensent que les éoliennes en mer ne sont pas les mêmes que celles en terre, mais bon, les impacts sont certainement les mêmes.
Les câblages, tout ça.
Les câblages. Alors, on a des...
Les socles en béton.
En Bretagne, on a la baie d'Erquy qui a les éoliennes en mer. Moi, j'ai voulu faire un rassemblement parce que pour faire comprendre les choses, en fait, ce n'est pas forcément en manifestant et en cassant les choses qu'on peut véhiculer le message. Alors moi, j'avais organisé un rassemblement. Tout bien déclaré et tout, on devait rassembler toutes les personnes, enfants, parents, grands-parents, avec leurs chiens, leurs chats, leurs lapins, leurs poules, et aller sur un bateau pour faire l'arche de Noé, parce qu'on était en danger, pour se sauver. Alors l'image, moi je l'avais dans ma tête, et je me dis, ça a tellement fait un buzz au niveau de la préfecture, ils se sont mis à... J'ai eu les renseignements territoriaux, j'ai eu les flics, j'ai eu tout le monde. J'ai eu même un arrêté communal pour m'interdire de venir sur la commune ce jour-là. Ça a pris une proportion démesurée au niveau de la préfecture. Par contre, du coup, on a été avec une autre personne. Et les éoliennes, le problème de sur Saint-Brieuc, entre autres, elles sont placées à l'ouest. Et tous les pales des éoliennes, naturellement, font un courant induit. Et le frottement fait forcément un courant. Et ces courants sont transmis par les vents sur les côtes. Donc aujourd'hui, enfin, on va voir, mais il n'y en a que 18 de mise en route, mais on va avoir un impact sur les côtes. On avait des dauphins, on avait des pingouins qui étaient là, mais ils vont pas rester. Ces bêtes-là sont intelligentes, leurs nids sont là, mais ils ne vont pas rester en danger. Ils vont se sauver. Et l'impact, de toute façon, que ce soit éolienne en mer ou en terre, c'est la même chose. On nous a dit aussi les palmes, il n'y avait pas d'infraction ni rien. Et puis du jour au lendemain, on voit dans un article de presse, ça y est, on a inventé les palmes sans infraction. Bon, ça conclut que les autres en avaient.
J'aimerais que tu conclues parce qu'on a un timing. Hein.
D'accord, cher Mike. Voilà. En fait, je pense que tant que ce qui s'est passé en URSS pour que l'Empire chute, c'est qu'à un moment, la population, les soviétiques ont compris que le pouvoir ne leur en voulait pas de bien. Et tant que les Français n'auront pas cette conscience, parce qu'il faut passer par cette conscience, tant que vous attendez que le président se déplace sur le salon, vous parlez et que vous lui expliquez que voilà, on n'est pas remboursé, etc., tant que vous croyez que ça peut encore régler le problème, la chute ne sera pas imminente. Donc il faut passer par cette conscience. Je pense que les crises successives nous ont amenés à petit à petit, à travers différentes strates de la société, comprendre un petit peu plus, mais on n'est encore pas en majorité. Mais on sera obligé de passer par là. Et puis, une deuxième chose, c'est que tout programme, il a besoin d'une incarnation. Il sera obligatoirement et passera forcément par une incarnation physique de quelqu'un. Sans cela, le peuple ne comprendra pas.
Et c'est pas déconnant que Richard l'incarne.
C'est juste mon sentiment par rapport au fait qu'un programme sans l'homme qui l'incarne
ou la femme,
peut pas
ou la femme,
ou la femme,
ou la femme.
Je serais 100% d'accord.
Évidemment. Voilà. Mais tiens, Natacha, elle viendra dans les émissions. Elle sera aussi présente ici. Voilà, je le dis ici. On aura Natacha,
qui n'est pas Natacha Ray. Hein.
Non, pas Natacha Ray. En tout cas, Natacha. Elle sera là d'ici 10 jours. Elle viendra ici en plateau. Voilà, je te le dis, je te fais la promesse. Elle sera ici présente. Voilà, je le dis. Et je veux aussi avoir, quand elle sera en plateau, son point de vue. En tout cas, merci à vous. On va passer au top tendance, donc à l'actualité. Mais avant ça, les petites annonces.
Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV.
Je vis de quoi? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout.
Moi, je pense pas.
Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre.
Tu vas payer pour ton insolence.
Soutenez Géopolitique Profonde. Vous avez vu, on vous apporte quand même des scoops. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui ont parlé de ces ondes électromagnétiques. Si vous voulez qu'on continue à faire ce travail d'information, eh bien, soutenez-nous, allez sur le Tipeee Stream. On est là pour vous parce qu'il faut parler de ces choses que le mainstream, évidemment, mettra de côté. Alors là, on va parler d'actualité. Quel est le premier top tendance ? Samara. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Qui est Samara ? C'est la jeune fille qui était dans le coma, qui a été tabassée ce matin. Je sais pas si t'as...
C'est pas ce matin.
C'était hier matin.
Elle est sortie du coma.
Elle est sortie du coma.
On
préparait l'émission. Ouais. Bon, donc, du coup, toi, t'en sais plus. Raconte-nous.
En fait, c'est une jeune collégienne qui s'était plainte, d'ailleurs, de harcèlement. Ses parents, sa mère avait signalé à plusieurs reprises. Ils ont écrit jusqu'au rectorat. Il y a eu quelques remontrances auprès de la personne, des choses. Mais simplement, ça ne s'est pas arrêté. Mais le plus choquant là-dedans, c'est qu'à un moment donné, la fille et son professeur alertent en fait, les parents sur le fait qu'il y a des garçons dehors qui attendent sa sortie, que ça va mal finir. La mère prévient le collège et la vie scolaire en demandant à ce que la fille soit retenue jusqu'à ce qu'elle arrive la récupérer. Et la jeune femme est quand même laissée partir, partir à 14 ans face à une meute de 20 personnes qui l'attendent pour en découdre. Et tout ça, il semblerait qu'il y a une question communautaire entre port du voile, mécréante, pas mécréante, la fille de Harki intégrée à l'européenne. Ça, c'est monstrueux. Si on arrive à ça au sein d'un collège, c'est qu'on est au bord de quelque chose de bien plus grave.
Oui, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux vivre ensemble républicain ? Est-ce que justement on n'arrive plus à vivre ensemble ? Est-ce qu'en fait, c'est l'individualisme qui est devenu roi, quoi ?
Je pense que le vrai problème derrière tout ça, c'est la question suivante, c'est l'intégration face à l'assimilation. Aujourd'hui, on a intégré du monde, mais on n'assimile pas les personnes. Donc, je pense que les personnes doivent vraiment, aujourd'hui, qui rentrent en France, sauf moratoire, et moi, ce que je propose, c'est vraiment un moratoire là-dessus,
sur l'immigration. Parce que là-dessus, t'es pas politiquement correct, pour le coup. Mais quand je dis politiquement, c'est-à-dire, c'est une bonne chose, c'est-à-dire parce que souvent, je remarque que les souverainistes évitent la question, du migratoire, de l'immigration. Ils évitent la question, voilà. Toi, tu l'évites pas. T'en fais tout un sujet.
J'évite pas. Et je suis très proche, moi aussi, des populations maghrébines, je vais te dire. Je suis très proche des populations maghrébines qui, du reste, nous soutiennent énormément. Et dès qu'on va en banlieue avec Natacha, on est vraiment très, très bien reçus. Parce que j'ai beaucoup de considération pour ces gens, en fait, qui, aujourd'hui, sont venus par la force des choses. On les a fait venir. Et aujourd'hui, on leur crache à la gueule et on les instrumentalise pour des fins politiques. Et donc ça, je trouve ça absolument scandaleux. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une autre religion qui a plus droit de cité aujourd'hui, plus voix au chapitre, eh bien aujourd'hui, on met toute cette population vraiment au banc des accusés. Donc je ne suis pas du tout pour qu'on les marginalise. Je suis pour qu'on les assimile dès lors qu'elles montrent patte blanche, qu'il n'y a pas de dossier derrière, qu'il n'y a pas de condamnation non plus derrière, qu'il n'y a pas de crime derrière et que ces populations veulent vraiment s'intégrer à la France. Et donc pendant 5 ans, on dit stop, on n'intègre personne et on fait venir personne. Mais en revanche, les populations qui sont déjà sur place, là on les intègre si tant est qu'elles veuillent l'être, avec des règles précises.
Justement, au niveau migratoire, comment ça se passe en Bretagne aujourd'hui ? Est-ce que la population a changé ?
Non, on n'est pas vraiment impacté. En fait, tout le monde s'intègre, peu importe les religions. Ça se passe plutôt relativement bien. C'est pas.
Charlu. Ce
oui, on est dans des petites communes. Ça se passe relativement bien, ouais.
Je vois, enfin.
C'est-à-dire que là, c'était vraiment des soucis vraiment parisiens, quoi, si je puis dire.
Enfin, ou, de grandes villes.
De grandes villes, quoi, je veux dire, voilà.
On voit. C'est,
si on commence à parler de Rennes, c'est pas chez nous, on va dire.
Ah, c'est oui, Bretagne, oui, c'est.
C'est vrai que. C'est, ouais. Voilà, il faut.
D'accord.
Alors, nous, on est en centre-Bretagne, on n'est pas sur les côtes, donc les impacts au niveau migratoire, c'est pas la même chose.
Cher Lara ?
Sur l'assimilation, j'aimerais dire, j'en suis un exemple. Hein. Je suis arrivée à l'âge de 25 ans, je ne parlais pas français. J'ai épousé la France, j'aime ce pays et j'ai voulu que mes enfants aient l'avenir, leur avenir en France et pas ailleurs. Donc c'est une forme d'adoption de la patrie sans qu'elle nous ait demandé de venir. Il faut être conscient de ça. On ne nous a pas prié de venir. Nous avons décidé de venir, c'est notre choix. Et je pense qu'à travers ça, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de grandes populations de personnes qui ont choisi de venir et qui veulent un avenir pour leurs enfants. Donc on est en train aujourd'hui de détruire cet avenir en leur, les mettant dans les cases, telle ou telle situation religieuse ou ethnique, etc. Et ils ne veulent pas ça. C'est pas pour ça qu'ils sont venus à l'origine. Ils sont venus pour devenir français. Donc c'est ça l'assimilation. C'est je prends, j'épouse l'histoire, la culture, je garde en mémoire ce d'où je viens, mais j'ai choisi d'en partir. Donc c'est derrière. Faut tenir compte de ça, je pense. Beaucoup de choses.
Merci à toi, chère Lara. Deuxième top tweet, Charlie Hebdo. Alors pourquoi Charlie Hebdo ? Parce qu'ils ont fait une couverture, faut se dire, dégueulasse sur le petit Émile, qui a été... Alors, on ne sait pas s'il a été assassiné ou s'il y a eu un accident, mais en tout cas, ils ont fait une couverture. Alors, on ne va pas la montrer.
Ils ont fait une couverture pour dénoncer l'intérêt médiatique, chaînes d'infos, etc. Sauf que, juste un petit rappel, eux-mêmes, ils font cette couverture sur Émile. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens.
Clairement.
Parce que s'ils dénoncent la médiatisation de cette affaire...
C'est ce qu'eux disent.
Mais c'est tellement dégueulasse.
C'est-à-dire
mais
qu'en c'est fait, le petit Émile est représenté en squelette.
Oui. En couverture, comme une espèce de poisson attrapé par une corde. Enfin, c'est monstrueux. Et je trouve que là... malheureusement, c'est Charlie Hebdo, ce qui l'a sauvé, c'est cet attentat, mais sinon,
voilà, ils ont même
ça
utilisé le mot
rire,
nonos.
Ça fait pas rire.
Ils ont utilisé le mot nonos. Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, mais ce qui est derrière tout ça, moi, ce que je condamne, c'est la liberté d'expression à double titre. C'est-à-dire que nous, toutes nos chaînes sont systématiquement fusillées, et nos amis paysans sont bien placés pour le savoir, parce que dès qu'on fait une émission sur eux, eh bien, on nous coupe la chaîne, on nous coupe les émissions et autres. Et puis, d'un autre côté, il y a d'autres gens qui sont aujourd'hui proches du pouvoir et qui, sous couvert de le dénoncer, profitent vraiment d'une liberté d'action totale. Et donc, c'est absolument dégueulasse et scandaleux. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis ?
Deux poids, deux mesures.
C'est ça, hein ?
C'est voilà.
Vous voulez dire quelque chose ?
Non, j'ai déjà bien parlé, j'ai dit ce que
et
j'avais
moi,
à
je
dire.
Je vous dirais très sincèrement, alors évidemment, c'était, il ne faut pas s'en prendre à eux, mais le « je suis Charlie », ça va, merci bien.
Non, je ne suis pas Charlie.
Non, voilà,
totalement. Pas du tout, Charlie.
Voilà, pas du tout. Troisième top tendance, les Jeux Olympiques. les Jeux Olympiques, on a inauguré la piscine olympique à Saint-Denis, qu'est-ce que tu en penses, ça va être un succès ?
Écoute, je ne sais pas si ce sera un succès, j'ai juste peut-être une petite histoire, si je me laisse juste deux minutes de fin,
en
ce qui me concerne, hein, bien sûr. J'ai eu la chance d'aller vivre à Madagascar aux côtés du père Pedro, à Tananarive. Le père Pedro, c'était un prêtre qui était dans les banlieues malgaches et qui a entendu un jour à la radio qu'il y avait un sommet des chefs d'État africains à Tananarive, la capitale, et que les pauvres des centres-villes, on allait les balancer sur les hauteurs, sur les décharges, là où les petits-enfants en haillons attendaient vraiment les poubelles. Donc tous les pauvres, pour donner une très belle image en fait, du pays et montrer que le pays était rayonnant à Madagascar. Le père Pedro est monté à Tananarive, a acheté ces terrains qui sont sur les hauteurs de Tananarive, sur les décharges. Il a dit, sur ces terrains-là, on va faire construire des maisons. Il y avait des carrières à côté, les femmes allaient chercher les pierres, les hommes les mettaient, les installaient. Et aujourd'hui, ces terrains-là sont les terrains les plus prisés du pays. Et les riches qui étaient à Tananarive au centre-ville, lorgnent sur ces terrains-là, qui ont une vision à 180 degrés sur tout le paysage environnant. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, si tu veux, à Paris ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on est en train, par des quartiers, de prendre les pauvres, les gens qui sont sans domicile fixe, les gens qui sont dans la misère la plus totale, on les fourgue dans des bus et qu'on envoie ces bus-là en province pour progressivement, d'ici un mois, donner une très belle image de la capitale. Eh bien, j'aimerais quelque part être un peu le père Pedro et dire, j'espère que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils s'en tireront à bon compte et ils auront derrière eux ce soutien populaire et cette âme qui puisse leur permettre de rebondir un jour ou l'autre et de connaître la résilience.
Merci, cher Richard. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc ? Jeux Olympiques, vous pensez que ça va être un succès ? Vous êtes content d'avoir les Jeux Olympiques ?
Non. Non, c'est... Enfin, c'est ridicule, même.
Ouais. C'est pas la joie, les Jeux Olympiques, hein ? Cher Stéphane.
Non, je pense que c'est une déconnexion complète de la réalité. Et c'est quand même dommage que de faire du bling-bling à travers le sport, je pense, qui mérite mieux que ça, on va dire. Et on voit bien que... Ben nous, la seule chose qu'on disait avant, ce matin, quand on est venu, la seule chose qu'il y a, c'est sûr qu'on ne sera pas à Paris pour les Jeux Olympiques, parce que je pense que les Parisiens sont peut-être en danger sous plusieurs formes, je dirais. Et on voit bien, enfin, nous, on ressent une pression qui est mise sur la région parisienne pour cette période-là, autant financière qu'au niveau des attentats et tout ça. Et c'est certainement pas là qu'il faudra être pour cette période-là.
C'est sûr. Lara ?
Moi, j'ai deux choses à dire à ce niveau-là. Déjà, ça rappelle beaucoup encore l'URSS. Hein, parce que pour la grande Olympiade, pareil, il fallait sortir tous les pauvres. Donc, c'était derrière le 101e kilomètre depuis Moscou. Donc, quand on plaçait des gens, c'était amené à plus de 100 kilomètres de Moscou. Donc, ça ressemble, cette espèce de... village de Potemkin créé un réel inexistant, débarrassé de misère, de gens qui dorment dans la rue, qui vendent à la sauvette, des campements sous les ponts, etc. Ce sera bon pour un mois, et puis après, bah, tout ce monde-là va revenir. Donc, entre-temps, j'avais adoré les sorties de Valérie Pécresse sur le ticket de métro, comme quoi
4 euros,
c'était fait pour qu'on n'en achète pas. Pour qu'on prenne plus le métro. Donc, on est arrivé aujourd'hui aux gens qui sont au pouvoir, qui non seulement se foutent de notre gueule, mais en plus, ils nous disent que c'est pour notre bien. Parce qu'à côté, elle dit, parce qu'il faut marcher davantage, c'est bon pour la santé.
Ce
niveau-là de cynisme, il n'a jamais été atteint, à mon avis. Parce que d'un air hautain, elle dit 4 euros, c'est pas pour que vous en achetiez. C'est pour que, justement, vous n'en achetiez pas. Et à côté, marcher, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire leur défaillance, leur incurie,
mais surtout qu'elle avait
la couvre par le fait que
elle
c'est
avait
bon
dit
pour la santé.
Que parce que lorsqu'il y a eu dossier au CIO, on a dit « les transports seront gratuits ». Les transports sont... Mais oui, c'était
c'est
ça.
C'est
comme ça qu'on a vendu la candidature Paris au CIO. Les transports sont gratuits. Résultat, ce sera 4 euros le ticket de métro qui, aujourd'hui, coûte 2,15 euros. C'est-à-dire qu'on va doubler le prix du ticket de métro. Enfin, c'est fou. Et quand on a sorti l'information sur les 4 euros, Madame Pécresse a dit « Non, mais ce sera juste que pour les touristes. Bah, » Visiblement, non. Ce ne sera pas que pour eux, ce sera pour tout le monde.
Ça sera pour tout le monde, voilà. Oui, mais c'est confirmé. Et surtout, c'est pour
ces gens mentent ouvertement.
Bah oui, mais ils mentent, mais ils se couvrent. En fait, ils sont dans une incapacité de faire, mais à côté, ils donnent une leçon, disant « Mais c'est pour votre bien, en fait. » Tout ça, c'est pour votre bien.
Merci. Merci.
On l'a vu sur d'autres sujets, mais ce qu'on aimerait avoir, nous, c'est, vous parliez de l'Union soviétique et de la Russie, ce qu'on aimerait avoir, c'est quelque part, mine de rien, qu'on ait aimé ou pas le personnage, c'est un Gorbatchev. Gorbatchev, c'est un type qui, en l'espace de très peu de temps, a réussi quand même, malgré tout, même
on
si vous n'êtes pas d'accord avec ça,
parce que
la perestroïka et la glasnost, si vous voulez, quand même, il y a une transparence dans la liberté d'expression qu'il n'y avait pas avant. Vrai ou faux ?
Non, c'est pas vrai. Il va falloir faire un débat. Je suis pas d'accord.
Merci beaucoup, cher Richard. Ton livre, voilà, déjà, le journaliste à abattre, vous achetez le journaliste à abattre. Montre-nous le grand virage 2027. Voilà, vous commandez. Où est-ce qu'on le commande ?
Sur Amazon,
le grand virage 2027, les 50 propositions phares qu'on peut amender en plus.
Exactement, qu'on peut corriger avec les 50 mesures phares, avec les 300 propositions à la clé.
Merci à toi, merci cher infiniment, Richard. Mike. On te réinvitera pour connaître la suite. En tout cas, merci beaucoup. Luc Auffray, paysan. Montrez Luc Auffray. Voilà, le danger des pollutions électromagnétiques en élevage. En tout cas, on vous soutient, cher Luc. Merci à vous d'être venu. Où est-ce qu'on peut trouver, justement, ce magazine?
Il s'achète sur Internet, non?
Voilà, sur Internet.
C'est un magazine destiné aux agriculteurs.
En tout cas, ce serait bien que les gens aussi puissent le lire, parce que c'est important. En tout cas, merci à vous.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Stéphane Le Béchec. Voilà, Stéphane de Béchec montrait le prix du vent. Là aussi, on parle de cette pollution électromagnétique.
Et je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai vécu et tous les reportages qui ont été faits sur moi et sur tous les reportages qui ont été faits en France et ailleurs, sont sur le site qu'on a créé avec...
Comment il s'appelle le site ?
La faille est dans le pré.
Ah oui, la faille est dans le pré. Et puis, il y a aussi le Facebook.
Enquête ondes électromagnétiques agricoles et particuliers.
Enquête ondes électromagnétiques
agricoles et particuliers.
Voilà, allez sur cette page Facebook. Et enfin, Lara de Radio Courtoisie, tous les samedis de 9h à 10h30, libre journal de...
Voilà, de Géopolitique Profonde avec Nicolas Stocker, voilà. Avec une revue de presse, une rubrique financière.
On va parler de quoi cette semaine?
On va parler de ce qui se passe, encore une fois, dans les médias.
D'accord.
Encore une fois, remontrer les incohérences des annonces.
L'invité après, principal?
C'est Laurent Arthur de Plessis sur la Troisième Guerre. Je n'ai pas le nom du titre, le titre de son livre. D'accord. En tête, mais c'est sur son livre.
Voilà. Donc,
n'hésitez pas.
Radio Courtoisie, 80.
Suivi de controverses,
voilà,
cher Mike.
Suivi de mon émission, mais je ne dirai pas avec qui, c'est une surprise.
D'accord.
Radio Courtoisie, 9h95.6 de la bande FM. En tout cas, merci à vous, vous avez été très très nombreux. Plus de 4673 avec nos comptes X. Merci à vous. Vous nous suivez depuis 3 mois là qu'on a ces nouveaux studios. Continuez à nous soutenir. Vraiment, cette émission, elle est faite pour vous aussi, pour vous informer et pour, j'espère, aussi divertir. Et pour que vous appreniez aussi des choses dont on ne parle pas ailleurs. Demain, on se retrouve demain, 18h30, avec l'économiste Tom Benoît. Et là, on va parler de qui détient la dette française. Voilà, qui détient la dette française. Alors ça, pour le coup, ni Monsieur le maire, ni Madame Prisca Thévenot n'ont voulu répondre. Bon, on répondra demain. Allez, passez une bonne soirée et à demain soir. Salut, ciao.
Vous voulez nous soutenir?
Oui.
Gratuitement? Alors abonnez-vous et activez la cloche. Merci.
Mais je vous en prie.